j'avais feuilleté dans ma bibliothèque un certain nombre d'ouvrages, parce que sur cette question de débuter dans le métier, eh bien, il y a finalement relativement peu de travaux. Il y a quelques travaux d'observation, quelques travaux à caractère un peu sociologique sur les enseignants débutants, hein, comme ceux de Patrick Rayou, par exemple, et Agnès Van Zanten, mais qui commencent à dater un tout petit peu, qui restent valables pour l'essentiel. Mais il y avait très peu de travaux à caractère pédagogique et même didactique. Peut-être les travaux de Luc Ria à l'ENS, aujourd'hui, dans le cadre de sa chaire sur l'éducation, qui évoque la question de comment entrer dans une classe quand on est débutant, etc. Mais en dehors de ça, il y a très peu de choses dans la littérature, comme si cette question-là était un peu passée sous silence, en tout cas n'était pas centrale dans la recherche en éducation. Alors, évidemment, c'est un peu un handicap, parce que quand on parle avec relativement peu de soubassements à la fois théoriques et expérimentaux, on est obligé de prendre plus de risques dans ce qu'on va dire. Et effectivement, je vais prendre un certain nombre de risques. Alors, le premier point, et qui sera aussi le premier risque que je vais prendre avec vous, c'est de vous évoquer cette fameuse citation de Freud, qui, vous la connaissez tous et toutes, qui définit les trois métiers impossibles, que sont la politique, la psychanalyse et l'enseignement. Alors, la traduction, d'ailleurs, hésite sur enseignement ou éducation. Le mot que Freud utilise, mais je ne suis pas germanophone, et encore moins spécialiste de la traduction depuis l'allemand, peut, semble-t-il, prêter à interprétation, et le contexte ne précise pas si c'est l'enseignement ou l'éducation. Mais comme les deux autres métiers qui sont ciblés sont vraiment des métiers précis, la politique et la psychanalyse, on traduit en général le troisième terme par l'enseignement. Alors, je vais vous proposer de prendre 5 à 8 minutes, mais pas plus, puisque vous êtes répartis déjà par groupe, c'est parfait, pour essayer de vous demander, ça nourrira notre travail et l'exposé que je voudrais tenter d'organiser aussi à partir de vos remontées, je voudrais vous demander en quoi, aujourd'hui, pour vous, avec l'expérience que vous avez ou que vous n'avez pas, si vous êtes vraiment débutant, mais au visage, il me semble que la plupart ont un peu une expérience, mais peut-être très fine, enfin, vous avez commencé l'an dernier, mais en quoi, effectivement, l'enseignement peut être qualifié, peut-il être qualifié, de métier impossible? Quel peut être le sens de ce mot impossible? Comment vous l'interpréteriez au regard de votre propre expérience de ce métier? Voilà, je vous propose vraiment de l'ordre de 8 minutes, 10 si vraiment, mais pas plus. Essayons de décortiquer un peu ce mot impossible et puis de faire remonter les différents éléments que vous aurez pointés dans chacun des groupes que vous constituez. Voilà, donc moi j'ai 14h10 à 14h18, bien nous nous remettons en plénière. Récolter une brassée rapidement, sans y passer trop de temps, les idées majeures que vous avez faites émerger. Alors, voilà, au hasard, qui veut démarrer? Allez, le groupe qui est ici, par exemple. D'accord.
Il y a toujours un côté frustrant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'esprit de notre travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un.
Merci. c'est à peu près l'essentiel de ce que vous vouliez dire. Vous aviez d'autres... Donc c'est comme la flèche de Zénon qui, dans la fameuse démonstration du philosophe grec, était immobile et dont chacun sait que pourtant elle vole. Hein? Bon. On le fait, donc ça existe, hein? Et ça n'est pas impossible, mais ça a un côté frustrant puisqu'on ne voit pas les résultats, on ne voit pas toujours les résultats que l'on cherche à atteindre et en tout cas on ne mesure pas exactement ce que l'on fabrique, ce que l'on produit, ce que l'on déclenche. D'accord ? Pas d'autre chose à ajouter ? Alors, si vous voulez bien, ben, on continue en tournant. Et puis, si c'est la même chose, vous le signalez. Si vous voulez enrichir la réflexion, vous le faites également.
Alors, nous, on a remarqué que les trois métiers concernés par la citation reposaient sur le humain.
D'accord. Et ça vous a invité à une interprétation particulière?
Dès l'instant où on est passé de l'humain, on est dans une inconnue permanente.
Pourquoi l'humain est-il une inconnue?
4 heures, philo, allez.
Alors que nous avons des sciences humaines qui se donne pour objectif de le connaître.
Parce qu'on ne voit pas forcément les résultats, nous on peut dire qu'on sème quelques graines, qu'on va pas, on arrose régulièrement, mais qu'on ne sait pas l'avenir de la plante qui est à plus long terme. Quand un menuisier crée un meuble, il peut le voir terminé.
Donc il y a une invisibilité du produit fini. Des produits entre guillemets, hein. Fini aussi, entre guillemets, quand même. Ok. Merci. Comment ?
On ne peut pas appréhender ces réactions.
D'accord. Impossibilité de voir les réactions. Allez-y. Donc, ce groupe-là, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Puis sinon... vous continuez naturellement soit à dire on est d'accord, soit à donner des éléments supplémentaires par rapport à cette citation. Qui veut le groupe suivant? Il y a deux idées, il y a le fait que l'autre est singulier, si j'ai bien compris, et puis il y a par ailleurs l'idée que vous avez énoncée avant, selon laquelle l'autre peut ne pas vouloir, c'est ça ? Mais l'autre décide, c'est ça, hein. Vous avez insisté sur ce terme de décision. D'accord. Merci. On continue, hein. Oui. Allez-y, très librement. D'accord, merci. D'accord. Remise en question permanente. Merci. des éléments tournés tout naturellement. Hein. Oui? Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi? Parce que je suis assez d'accord avec vous, mais expliquez pourquoi c'est impossible en termes de charge de travail. C'est impossible parce que on n'est pas assez payé, ou parce qu'on n'est pas assez nombreux, ou c'est impossible parce que même si on était beaucoup plus nombreux et beaucoup mieux payés, on aurait toujours trop de charges de travail. C'est deux façons différentes de... Est-ce que cette impossibilité est conjoncturelle ou est-ce qu'elle est structurelle dans le métier ?
Structurelle.
Alors attendez, on va demander au groupe qui a proposé cela de préciser. Les deux, c'est ça ? Ça, c'est l'aspect plus conjoncturel. Ouais. D'accord. Merci. Non, il y avait un groupe entre eux, mais... Le devoir de disparaître, c'est ça?
Ça va se faire naturellement, de toute façon.
Oui, merci. D'accord. Ok. Alors, c'est la multiplicité des attentes qui, pour vous, est un facteur essentiel. Oui, on continue ?
Dans notre groupe, on a évoqué le temps de l'apprentissage qui serait plutôt spiralaire avec des allers-retours et puis le temps linéaire qui est le temps de
l'apprentissage. Absolument. C'est le décalage entre le temps de l'apprentissage et le temps de l'enseignement. Le temps de l'apprentissage est spiralaire et complexe avec des soubresauts et le temps de l'enseignement est lui plutôt linéaire. D'accord. Temps linéaire et spiralaire. Ok. Il y a télescopage de deux temporalités là, donc on pourrait dire. C'est très intéressant hein, ce que vous dites là, enfin tout ce que vous dites là. Cette question est. Non mais cette question du temps n'a pas été abordée, donc je. Je souligne, voilà, je souligne qu'il y a une dimension là qui est, à mon avis, importante, comme toutes les autres, évidemment. Que, pourquoi je dis que c'est intéressant? C'est parce que j'y avais pas pensé dans ma préparation.
Bien repris.
Donc, voyez. Oui. Donc, si vous voulez poursuivre. Que je regrette parce que je trouve que c'est une vraiment bonne idée, j'aurais dû l'avoir avant. Non, je fais le prof là. Hein. On est comme ça quand on est prof aussi. Hein. Oui
ben, nous, on a insisté sur le fait que l'école était donc obligatoire et c'est ce côté obligatoire qui rend les choses impossibles, selon moi. Alors, sinon, c'est un peu comme les autres groupes, c'est-à-dire que. Ça dépend fort de la relation. On est tributaire, pas uniquement de nous, hein. On est tributaire de la relation avec les élèves ou avec l'élève. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dit encore?
On se heurte à des libertés.
Voilà.
Alors j'avais noté là, mais ça reprend à peu près votre idée. L'école est obligatoire, mais l'apprentissage aléatoire, c'est ça? Hein? On doit aller à l'école, mais l'obligation de scolariser un enfant ne peut pas être une obligation pour l'enfant d'apprendre. Voilà.
On avait parlé d'une autre obligation, c'est l'obligation de moyens et l'incertitude du résultat.
D'accord. On sait que quand on développe l'obligation de moyens au détriment de l'obligation de résultat, on doit gérer évidemment une grande incertitude. Merci. Donc, au centre, là, sans que ça ait de connotation politique. Le centre parle beaucoup, hein, en général.
Non, mais tout a été dit.
Vous connaissez la dernière phrase d'Huberman, tout a été dit, mais tout reste à faire.
Voilà, voilà.
Comment ? D'accord. Oui. Faut les faire taire pour les faire parler, c'est ça, paradoxe majeur. Ok, il reste le dernier groupe. Oui. Oui, c'est le reste, c'est des choses que vous avez déjà entendues.
Il y a aussi la question de la valeur d'égalité qu'on peut développer entre l'adulte et l'enfant, et en même temps la nécessité de postures asymétriques différentes. Et souvent, on mélange la symétrie avec la supériorité,
la hiérarchie,
l'égalité.
Tout à fait. Très bien.
Et à quel moment est-ce qu'on obéit à la loi et à quel moment on est docile? Et
d'accord.
Parfois on refuse les deux, parfois on fait les deux, parfois on fait qu'une chose.
Merci. Merci à toutes et tous de vous être prêtés entre guillemets au jeu. C'était pas vraiment un jeu, mais c'est extrêmement intéressant tout ce que vous avez développé. D'une certaine manière, je pourrais dire à Marie-Alice, ça y est, moi je m'en vais, l'essentiel du travail est fait, parce que à peu près, en dehors de cette affaire de temporalité, à peu près tout a été dit. Bon, on rejoint ce que j'avais très largement préparé. Je vais donc, pour une très large part, me contenter de mettre des mots sur des choses que vous avez déjà exprimées. Alors, je vais commencer par mettre des mots qui ne sont pas les miens. Je vais vous lire un texte, un très court texte, d'un écrivain polonais qui s'appelle Witold Gombrowicz, dans un livre qui s'appelle Ferdydurk, qui est un livre très étonnant, que je vous recommande, un livre assez rigolo et en même temps extrêmement tragique. C'est un livre qui imagine, de manière fictionnelle, c'est un espèce de cauchemar absolu qu'un adulte est obligé de rapetisser et de revenir à l'école. Et au-delà de redevenir adolescent, de revivre les affres de l'adolescence et de l'enfance, et comme vous pouvez l'imaginer, l'adulte supporte extrêmement mal de revivre l'enfance et l'adolescence et trouve que c'est infiniment plus difficile que ce qu'il s'imaginait en tant qu'adulte. Alors tout cela est inscrit dans une prose très riche et particulièrement foisonnante, comme toujours chez Gombrowicz, avec des inventions tout à fait étonnantes. En particulier, c'est dans ce livre que Gombrowicz invente et développe le concept de cucu. Hein? Qu'est-ce que c'est que le cucu? C'est le fait de chercher à se mettre à la portée des enfants et en réalité jouer plutôt dans le registre de l'infantile que dans celui de l'enfance. C'est-à-dire, c'est en réalité infantiliser les gens avec lesquels on est et les obliger à jouer sur le registre de l'infantile et de la régression infantile plutôt que de les interpeller sur le registre de la maturité. Et Gombrowicz montre à travers des situations, pour les unes extrêmement scabreuses, pour les autres plus banales et plus ordinaires, qu'en réalité, beaucoup d'institutions pratiquent le cucu, parce que c'est leur condition de survie. C'est-à-dire qu'elles infantilisent un certain nombre de gens pour pouvoir continuer à leur imposer leur pouvoir. Voilà. Et elle ne joue pas à l'égard des enfants, même le registre de l'enfance, y compris de l'enfance sérieuse, parce que l'enfant est très sérieux, est toujours beaucoup plus sérieux qu'on l'imagine, même quand il rit. On ne joue pas sur le registre de l'enfance, on joue sur le registre de la régression infantile, au caprice pulsionnel, c'est-à-dire à tout ce que précisément l'enfant cherche à maîtriser, que l'éducation a pour finalité de lui apprendre. Alors dans ce livre qui s'appelle Ferdi Durk, qui avait fait un grand scandale à l'époque, dans ce livre, Gombrowicz imagine que son héros donc retourne sur les bancs de l'école. Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. J'espère que vous prenez. Pourquoi les poésies de Jules Slovaki, ce grand poète, contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit. Mais puisque moi, je ne m'enthousiasme pas, mais pas du tout, je ne suis pas du tout enthousiasmé, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je ne peux pas en lire plus de 2 strophes, et même ça, ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer, puisque ça ne m'enthousiasme pas? L'élève se rassit, les yeux exorbités, comme s'il sombrait dans un abîme. Devant sa confession naïve, le maître faillit s'étrangler. Pas si fort, par pitié, siffla-t-il. Galbievitch, vous serez collé. Vous voulez ma perte? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites, Galbievitch. Mais je ne peux pas comprendre, moi, je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme si ça ne m'enthousiasme pas. Le professeur. Comment cela peut-il ne pas vous enthousiasmer, Galbievitch, puisque je vous ai expliqué 1000 fois que cela vous enthousiasme. Galbievitch. Mais moi, ça ne m'enthousiasme pas. Le professeur, ça ne regarde que vous, Galbievitch. Il semble que vous manquiez d'intelligence. Les autres, eux, sont enthousiasmés. Galbievitch. Parole d'honneur. Personne ne s'enthousiasme. Comment est-ce que ce serait possible puisque personne ne lit ça à part nous à l'école et encore partout nous dit fort. Le professeur, si fort par pitié, c'est parce qu'il existe, Galbievitch, trop peu de gens cultivés à la hauteur. Galbievitch, mais même les gens cultivés non plus ne s'enthousiasment pas. Aucun, personne, absolument personne. Le professeur, Galbievitch, j'ai une femme et un enfant, ayez au moins pitié de l'enfant. Alors, voilà une scène que je trouve extrêmement intéressante et illustrative de certains propos qui ont été tenus par les uns et par les autres dans cette salle. Alors, c'est une scène évidemment caricaturale, mais c'est une scène où l'enseignant se heurte à une sorte de fin de non-recevoir parce qu'il convoque l'intérêt, l'affectivité de l'élève, et qu'il ne peut pas le convoquer sans que cet élève adhère d'une manière ou d'une autre à son message. Et le professeur, dans un espèce de sursaut pathétique, en vient finalement à ne défendre sa profession que parce qu'elle lui permet d'avoir un gagne-pain. Un gagne-pain, puisqu'on n'a pas de pouvoir réel pour enthousiasmer les élèves quand ils ne s'enthousiasment pas, ma foi. La seule utilité que l'on a est une utilité sociale, celle d'une garderie plus ou moins bien organisée, qui coûte nettement moins cher que l'armée, et qui permet de libérer les parents pendant un certain temps dans la semaine. Ça reste ça quand même, hein.
Largement.
Socialement parlant. Alors, ça me permet d'introduire un point d'introduction qui est une distinction relativement simple que la plupart d'entre vous ont évidemment rencontré entre deux concepts qui apparaissent déjà chez Aristote et qui ont été repris en matière éducative par mon collègue Francis Imbert, qui sont les concepts de praxis et de poiesis. Aristote distingue dans l'action humaine deux modalités. Une modalité qu'il appelle la poiesis, qui n'a rien à voir avec le poétique malgré la racine commune, et qui relève de ce qu'on pourrait appeler la fabrication. Le potier, quand il a une activité, il fabrique un pot, et il a à l'origine un projet pour ce pot. Alors, il peut changer légèrement de projet en cours de route, mais il a une idée de ce qu'il veut faire et de ce qu'il va réussir à faire. Et il va chercher à se rapprocher le plus possible de l'objet dont il a une idée préconçue. La caractéristique de ce qu'Aristote appelle la praxis, c'est que c'est une action qui s'effectue sans avoir de représentation de l'objectif auquel on doit aboutir. À ce titre, Aristote évoque la vue, la vision, par exemple. Quand on décide de regarder quelque chose, on ne sait pas nécessairement ce que l'on va voir. Et il évoque l'éducation comme étant une activité qui relève de la praxis, parce que ce que l'on veut produire, on n'en sait rien. Parce que si l'on savait ce que l'on veut produire, ce ne serait pas de l'éducation, ce serait de la fabrication. Et si c'était de la fabrication, eh bien, il faudrait que on relève, ça relèverait du registre du formatage. Alors, ce qui caractérise la praxis, et vous allez voir qu'on retrouve des choses très proches de ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous, c'est qu'effectivement, n'ayant pas d'objectif identifié, repérable et saisissable, elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin, F-I-N. Ni dans le sens de direction très clairement établie, ni dans le sens de fin, au sens de l'arrêt, de la terminaison. C'est pour ça que vous avez raison de dire que l'enseignement, s'il se veut une praxis, n'est jamais terminé et que nous avons toujours trop de charges de travail. Nul ne peut mettre la clé sous la porte de sa classe un soir en disant « il n'y a plus un seul élève pour qui il y a une incompréhension que je n'ai pas levée, il n'y a plus une seule difficulté que je n'ai pas travaillé, pour laquelle je n'ai pas mis en place une situation pédagogique avec un système de contraintes et de ressources adaptées. Il n'y a plus un élève qui traîne la patte ici ou là. Il n'y a plus un élève qui n'est pas mobilisé sur le savoir que je veux lui enseigner. Donc, j'ai atteint totalement mon objectif. J'ai fait le pot que je voulais faire. J'ai posé la fenêtre si je suis vitrier. Et donc, je peux mettre la clé sous la porte et rentrer chez moi et mettre mes pantoufles et dire « j'ai fait mon œuvre, j'ai vécu, j'ai fait mon travail, il est fini ». Nous savons bien que, vous l'avez souligné, dans le domaine humain, nous n'avons jamais terminé et nous ne pourrons jamais savoir si nous avons terminé. Nous n'avons pas de représentation préalable de ce que chacun de nos élèves deviendra, ce qu'il doit devenir a fortiori. Et si nous avons des intentions, elle reste relativement générale, disons que nous devons transmettre et émanciper à la fois, j'y reviendrai, ce qui est évidemment le projet fort de tout enseignement, mais ça ne nous dit pas ce que je dois faire concrètement avec le petit Jojo ou la petite Sarah, ni qui sera et que fera Jojo ou Sarah, puisque cela, ça leur appartient très largement, tout autant à eux qu'à moi. Et c'est ce qui fait dire à Freud que c'est effectivement un métier impossible. Comme l'ont remarqué plusieurs d'entre vous, la notion de métier impossible renvoie à trois métiers qui ne peuvent pas s'exercer sans la collaboration ou sans l'implication de ce sur qui il s'exerce. Aussi bien la politique, aussi bien la psychanalyse, aussi bien l'éducation, l'enseignement, ne peuvent se faire sans une alliance, quelque part, entre celui qui exerce le métier et celui ou ceux sur lesquels ce métier s'exerce. Sans cette alliance par laquelle l'autre prend part à ce que l'on a décidé de faire avec lui. Et cet engagement de l'autre, nous ne pouvons pas avoir une totale maîtrise dessus, puisque précisément l'autre n'est pas un objet, c'est un sujet, et que l'autre n'est pas atteignable dans ses intentions et ses réactions, comme vous l'avez souligné, puisqu'il y a ce que le philosophe Husserl appelait l'opacité incontournable et consubstantielle de la conscience d'autrui. Ce qui est très désagréable pour les enseignants. Vous êtes là, une centaine, polis, mais m'écoutez, je n'ai aucune illusion. C'est-à-dire que vous avez tous assez de fréquentation de l'institution scolaire pour faire semblant d'être là tout en étant parfaitement ailleurs. Vous savez tous quels sont les codes qui font qu'on fait semblant de s'intéresser à ce qui est dit, tout en disant en son fort intérieur que vous n'avez rien à faire et que cela est la plus triste des banalités. Et donc vous avez tous les moyens de jouer la comédie comme un élève de quatrième de bon aloi, hein, qui sait s'ennuyer à l'école, c'est-à-dire qui s'ennuie poliment. Le problème de l'ennui n'étant ni un problème nouveau, comme en témoigne par exemple l'article ennui du dictionnaire de Ferdinand Buisson, mais il n'est pas un problème nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les élèves ne s'ennuient plus poliment. Moi j'ai toujours ce souvenir, et je vous prie de m'excuser de ce souvenir personnel de ma mère, paix à son âme, qui me donnait des conseils très clairs sur ce plan-là. Il me disait, tu sais, nous les femmes, on connaît les hommes. On sait que les hommes ont horreur qu'on leur montre qu'ils nous rasent, qu'ils nous barbent et qu'ils nous ennuient. Mais 9 fois sur 10, ils nous rasent, ils nous barbent et ils nous ennuient. Mais on sait qu'il ne faut pas le leur montrer parce que sinon on ne trouve pas de mari. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Hein? Ouais. Elle me dit, tu dois faire pareil avec tes profs. Les profs, ils n'aiment pas sentir qu'ils t'ennuient. Donc, fais semblant d'être intéressé et tu verras, ça marchera bien à l'école. Comme nous, les femmes, on fait semblant d'être intéressé par les hommes, alors que 9 fois sur 10, ce qu'ils nous disent nous ennuie profondément. Donc, nous, les femmes, nous avons appris des choses, ce qui explique évidemment pourquoi les filles ont de meilleurs résultats à l'école que les garçons. C'est parce qu'elles s'ennuient poliment. Plus poliment en tout cas que les garçons, enfin, majoritairement, mais pas unanimement néanmoins. Donc il y a cette opacité incontournable de la conscience d'autrui qui est extrêmement désagréable et qui fait qu'à chaque instant, nous rêverions d'avoir une sorte de lecture directe à cerveau ouvert de ce qui se passe dans la tête de nos élèves. À cet égard, je raconte parfois ce souvenir qui m'a beaucoup marqué, d'une recherche il y a déjà 15 ans, mais quand je dis 15 ans, c'est souvent 20, donc il y a déjà longtemps, j'avais été invité par des collègues québécois de l'Université de Montréal qui m'avaient fait visiter une classe expérimentale qui travaillait avec des chercheurs en neurosciences, c'était le tout début des neurosciences, dans la belle province. Chaque élève... dans ce cours de mathématiques de 10 à 12 enfants, donc un petit effectif, hein, chaque élève était à la fois sous perfusion électroencéphalogramme. C'était très médicalisé. C'était sous perfusion parce qu'on marquait leurs globules rouges avec un marqueur nucléaire qui permettait de repérer ensuite la circulation sanguine dans le cerveau. Ils étaient enfin sous électroencéphalogramme parce que grâce à cet électroencéphalogramme et une technique qu'on appelle la technique de caméra à positon ou positron, on repère ensuite les globules rouges qui sont marqués et on sait où ils vont. Et donc, on peut ainsi avoir au-dessus de chaque élève un écran de télévision avec un cerveau en coupe et on peut voir à chaque instant la zone cérébrale qui est irriguée. Donc, si pendant que vous faites un cours de mathématiques, c'est la zone des activités affectives qui est irriguée, vous pouvez en déduire que le gamin n'active pas ses facultés logiques, donc vous disposez d'un bouton poussoir qui vous permet de lui envoyer une légère décharge pour le ramener à l'attention. Mais c'est une situation assez merveilleuse pour l'enseignant. Alors nous avons à l'égard de cette situation une ambivalence profonde. Parce que en même temps que je vous sens un peu crispé sur la possibilité de généraliser ça dans vos classes, je sens que quand même, ça vous séduit quelque part. Parce que c'est l'évaluation formative poussée à bout, quoi. On peut corriger en temps réel et immédiatement. Imaginez que j'ai une indication là, au fond de la salle, avec des cerveaux en coupe, ça me permet de savoir quand je dois introduire une anecdote, parce que l'attention fléchit, quand je dois faire ceci, quand je dois faire cela. C'est une des régulations automatiques des apprentissages. Mais vous avez aussi, je vous sens un peu rétif à cette idée, parce que bien évidemment, nous ne sommes plus dans l'apprentissage. Nous sommes dans toute autre chose que l'apprentissage, comme de manière délibérée dans quelque chose qui ressemble au conditionnement pavlovien et qui renvoie à une conception extrêmement et strictement béhavioriste de l'apprentissage. Et nous résistons légitimement parce que cette vision de l'apprentissage, c'est le parti pris théorique et méthodologique du béhaviorisme, nie le sujet dans la personne et le considère comme étant une boîte noire entre des inputs et des outputs. Mesurant les inputs et les outputs, on crée des arcs et on sait que tel input provoque tel output, etc. Et là, nous sommes à nouveau et nous rebasculons dans la poiesis. C'est-à-dire, nous rebasculons dans la fabrication, nous abandonnons la praxis. Alors, peut-être que ce que voulait dire Freud, mais il y a de nombreux ouvrages autour de cette fameuse maxime, dans un très intéressant de Mireille Cifali que je vous conseille vivement. Ce que veut sans doute dire Freud, c'est qu'il y a, mais vous l'avez très bien dit dans vos réactions, une sorte d'impossibilité dans ce métier qui est liée au fait que on n'a pas de prise sur celui et ceux sur lesquels on nous paye pour avoir prise. On a un peu prise, mais on n'a pas une prise qui est celle de l'artisan ou... C'est la raison pour laquelle l'école ne peut pas être une entreprise, tout simplement. C'est parce que nous ne fabriquons pas des objets, nous travaillons avec des sujets, certes des sujets en émergence, certes des sujets en construction, certes des sujets qui n'ont pas encore, pour la plupart, quitté ce que Kant appelle le pathologique, c'est-à-dire ce qui les a construits. Le pathologique, ce n'est pas la maladie chez Kant, le pathologique, c'est ce qui... existe dans le psychisme avant l'émergence de la volonté autonome chez Kant. Donc nous sommes dans le pathologique et nous ne faisons que qu'être la conséquence de ce dont nous avons hérité et des événements dont nous avons en quelque sorte été les témoins ou les victimes. Donc nous travaillons avec des gens qui sont encore pour une part dans le pathologique, c'est-à-dire qui sont encore le produit de leur histoire, etc., mais dont nous avons la charge de faire émerger la volonté. Donc, dont nous avons la charge de faire émerger des décisions et pour lesquelles, et ça a été dit par certains d'entre vous, nous ne pouvons pas prendre la décision à leur place. Alors après ces quelques mots d'introduction, je voudrais faire trois séries de remarques relativement rapides et puis engager à partir de ça la réflexion avec vous. Donc, première série de remarques, je l'ai intitulée « Quand débute-t-on ?» La deuxième série, c'est « Quand commence-t-on à apprendre ?» Et la troisième série, c'est « Quand entre-t-on vraiment dans l'enseignement ?» En mettant le mot « enseignement » au sens le plus plein du terme. Alors, première série de remarques, elle sera assez courte, c'est « Quand débute-t-on ?» Alors, évidemment, dans l'enseignement, on débute, comme dans tous les métiers, on débute carrière. Moi, j'aurais tendance à passer qu'on débute tous les jours à chaque heure, puisque précisément, il n'y a aucune situation qui ressemble 100%, qui reproduit plus exactement 100% une situation déjà vécue, ne serait-ce que parce que même s'il y a les mêmes données, le fait de l'avoir déjà vécue change la manière dont on va vivre la suivante, donc elle n'est plus la même, hein, ça va de soi. Tous les jours, à chaque heure, nous recommençons et nous redébutons avec quelque chose qui est toujours nouveau et qui implique de débuter. Et puis, pour faire référence à un travail que j'ai fait il y a maintenant d'assez nombreuses années, je dirais que nous débutons à chaque fois que nous rencontrons ce que j'avais appelé, à partir de l'étude d'un certain nombre d'écrits pédagogiques, le moment pédagogique. Dans un ouvrage qui s'appelle « La pédagogie entre le dire et le faire », j'avais étudié un certain nombre d'auteurs, et en particulier un auteur peu connu, souvent cité, mais plutôt par le courant anarchiste de l'éducation, ou par nos collègues de la CNT, que vous connaissez peut-être, qui est Albert Thiry. Albert Thiry est un instituteur de la Troisième République qui avait pour devise je cherche la formulation exacte parce que je ne voudrais pas me tromper, c'est le refus de parvenir. Le refus de parvenir, ça voulait dire pour lui le refus d'entrer dans l'institution et de réussir au sens où l'institution fabrique des parvenus. Prenez le mot parvenu au sens le plus fort du terme, quand on dit c'est un parvenu, ça n'est pas un éloge. Le refus de parvenir, ce qui fait qu'il a refusé évidemment toutes les promotions, absolument tout. Il côtoyait un peu Charles Péguy, au moment où Charles Péguy était dans sa verve la plus révolutionnaire, c'est vrai que l'œuvre de Péguy est très contrastée, et il était extrêmement brillant, c'était en particulier un grand spécialiste de littérature, et il s'est fait nommer, alors qu'il avait le rang pour être nommé ailleurs, il s'est fait nommer comme s'il avait été le dernier de sa promotion dans une classe rurale, du côté de Meaux. Alors à l'époque, Meaux était une petite ville rurale, il était dans la banlieue de Meaux, au milieu de paysans qui découvrent, qu'il découvre et avec lesquels il vit une histoire assez fantastique pendant 2 ans qu'il a nous a livré dans son journal. C'est d'ailleurs un journal qui a été édité sous forme d'œuvres de textes électroniques accessibles à tous, hein, et non payants. Ça s'appelle « L'homme en proie aux enfants ».« L'homme en proie aux enfants », c'est un très très beau texte, je vous en recommande vivement la lecture. C'est un texte très fort de pédagogie nouvelle. C'est un journal d'un instituteur qui enseigne plutôt en fin d'études que vous trouvez donc gratuitement sur Internet. Donc, « L'homme en proie aux enfants », c'est l'histoire de ce jeune enseignant qui découvre progressivement la vacuité de ses injonctions du type du professeur de Galkiewicz. En particulier, il y a une scène extrêmement émouvante quand il arrive en face d'une de ses premières classes. Il veut leur lire un chapitre du livre qu'il considère comme le plus beau et le plus extraordinaire de la langue française, qui est Les Misérables. Et il leur lit un chapitre qui s'appelle « Forme que prend la souffrance pendant le sommeil », qui est un chapitre très peu connu d'ailleurs des Misérables, que en général les résumés zappent beaucoup. C'est un chapitre très surréaliste. Jean Valjean est en train de dormir. C'est le moment où il a découvert que Champmathieu allait être jugé à sa place et que lui risquait de faire condamner un innocent. Et il raconte son rêve. Le chapitre est complètement éblouissant et on pourrait le signer presque certains passages de Lautréamont, tellement il est extraordinaire. Hein. J'étais dans une campagne, une grande campagne triste où il n'y avait pas d'air, il ne semblait pas qu'il fît jour ni qu'il fît nuit. Je me promenais avec mon frère, le frère de mes années d'enfance, etc. Nous causions et nous rencontrions des passants, nous parlions d'une voisine que nous avions eue autrefois, etc. Il n'y avait pas d'arbre dans la campagne, nous vîmes un homme passer près de nous. C'était un homme tout nu, couleur de cendre, monté sur un cheval, couleur de terre. Un homme tout nu, couleur de sang, monté sur un cheval, couleur de terre. Ici, alors ça c'est Victor Hugo. Hein. Après c'est Albert Thierry. Ici Thomas, le brutal au trait inachevé d'hydrocéphale, éclata grossièrement de rire. Je le punis avec colère et tristesse, puis je continuais. Il lit Victor Hugo. L'homme n'avait pas de cheveux, on voyait son crâne et des veines sur son crâne. Il tenait à la main une baguette qui était souple comme un sarment de vigne et lourde comme du fer. Ce cavalier passa et ne nous dit rien. Mon frère me dit, prenons par le chemin creux. Il y avait un chemin creux où l'on ne voyait ni une broussaille ni un brin de mousse. Tout était couleur de terre, même le ciel. Au bout de quelques pas, on ne me répondit plus quand je parlais. Je m'aperçus que mon frère n'était plus avec moi. Et là, il y a un Marcel, il y a deux Marcel dans cette classe, le Marcel Brun, qui se met à crier « Ou qu'il était fourré !» demanda-t-il à mi-voix avec une grimace oblique. Et puis, évidemment, la classe se met à dégénérer et tous ces élèves qu'il espérait séduire, capter, enthousiasmé, comme le professeur de Galkiewicz avec ce texte formidable, se mettent à singer ça, en jouer à être à cheval et tout nu, à commencer même à se déshabiller pour ridiculiser Albert Thierry, etc. Enfin, ça devient une débandade absolument totale, et Albert Thierry tient le coup jusqu'à la cloche. Heureusement, elle arrive assez vite, hein. Où allez-vous dès que la cloche sonne? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes mort depuis longtemps? Il leur dit, puisqu'ils ne sont pas capables de rêver et d'écouter ça, j'ouvris la bouche pour répondre et je m'aperçus qu'il n'y avait personne autour de moi. On entendait la cloche, les enfants de mauvaise volonté sortir, sans doute heureux d'échapper à mon commentaire, mais moi je n'échappais pas au leur. À peine était-il dehors que le Marcel aux yeux d'eau verte, cet ingénieux pitre sautant sur le vaste dos de Thomas, se mettait à crier. C'était un homme tout nu, couleur de cendre, et aussitôt Marx se raidissait comme le tronc d'un tilleul pour opposer le plus farouche silence à Léon et au deuxième Marcel qui l'interrogeait, à qui est ce jardin, etc. Et tous pleuraient de rire en citant le texte de Victor Hugo. Et moi, il conclut ce passage-là, je souffrais, j'étais humilié, je plaignais la beauté. Je souffrais, j'étais humilié, je plaignais la beauté. On a là typiquement l'exemple d'un jeune enseignant, alors c'est un vrai débutant, c'est quasiment son premier cours, qui découvre quelque chose qui ne nous paraît pas extravagant aujourd'hui, mais qui pour lui, qui ne connaissait pas le milieu rural, qui ne connaissait pas des êtres qui n'avaient pas sa culture et qui n'étaient pas spontanément en demande à l'égard de cette culture, qui pour lui est évidemment tout à fait invraisemblable, et il plaint la beauté, il est humilié. Il ne sait pas, il ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Et puis, si vous avez la curiosité de poursuivre un petit peu la lecture, il y a un moment où il se passe quelque chose de très fort pour Albert Thierry. Sa première année d'enseignement, il explique un petit problème mathématique relativement simple, astronomie et mathématiques. Hein, il joue sur l'astronomie et les mathématiques, ce qui était déjà d'ailleurs à l'époque extrêmement audacieux de faire de la pédagogie en mélangeant l'astronomie et les mathématiques. Et il s'aperçoit là que la plupart des élèves comprennent, mais que certains ne comprennent pas. Et il écrit « Je vis ce jour-là le Marcel Brun, parce que vous avez compris qu'il y a deux Marcel, souffrir sous ma pensée comme on souffre sous le fer rouge. Souffrir sous ma pensée comme on souffre sur le fer rouge. Et là, il y a un développement que je ne vais pas vous lire, vous le lirez si cela vous intéresse, où il décortique ce qu'il est en train de faire. Et où il comprend qu'il y a quelque chose qui lui a profondément manqué jusqu'à présent, c'était de se projeter en quelque sorte dans ce qu'étaient ses enfants et de sortir de la centration exclusive sur son propre discours, sur ses propres goûts, sur ses propres objectifs. Et l'enfant qui souffre, ça lui fait réinterroger, dit-il, et il emploie ce mot de réinterroger, ce qui est à mon avis très moderne pour l'époque, en 1910-12, ça lui fait réinterroger son propre savoir. Et il se dit, comment pourrais-je retravailler mon propre savoir, non pas pour l'abandonner, mais pour le rendre compatible, alors il emploie le mot compatible, nous ne l'employerons probablement pas aujourd'hui, avec ces élèves-là. comment faire en sorte que ces élèves ne souffrent plus sous mon savoir. Et progressivement, il va évoluer pendant ces 2 années d'enseignement pour découvrir qu'il a besoin de se mettre en quelque sorte dans la tête de l'élève pour comprendre pourquoi il souffre sous son savoir, et de réapprendre son propre savoir en se mettant à la place de l'élève. Alors, il dit les choses comme ça. Nous ne le dirions pas comme ça aujourd'hui. Hein. Mais je crois que, et je l'avais exprimé à l'époque dans le livre dont je vous parlais, je crois que c'est ça ce que j'appelle le moment pédagogique. C'est le moment où une difficulté, un échec, une incompréhension n'est ni retournée vers l'élève dont on dit que c'est un nul, ni retourner en culpabilité vers soi, dont on se dit « je n'y arriverai pas parce que je suis nul », mais sert de levier pour réinterroger son propre savoir sous l'angle de l'apprentissage et non plus de l'enseignement. Or, si j'observe les entretiens qui sont rapportés ici ou là de jeunes enseignants, je m'aperçois que, y compris d'ailleurs dans l'œuvre d'Huberman, qui est un peu ancienne évidemment, mais il est mort en 2010, hein, non, il est mort en 2000, en 2000 il est mort, donc ça fait 15 ans, c'est ça, il est mort en 2000, mais certains d'entre vous l'ont connu, c'est Kiela ou d'autres, Jeannie pardon, on travaillait avec Huberman sur le département de l'Ain, sur la mise en place de réseaux de mutualisation des savoirs professionnels. Si on regarde les entretiens, si on regarde les travaux d'Huberman, on s'aperçoit que précisément l'enseignant débutant, et au sens où je le dis, ça peut être à chaque cours, hein, lui, il le prenait sous l'enseignant débutant en début de carrière, a tendance à se réfugier dans une de ces deux attitudes, soit faire porter la responsabilité de l'échec ou de la difficulté sur l'élève, soit à la reporter sur lui-même, et dans les deux cas, la situation est bloquée, elle s'arrête là, soit l'élève doit être exclu, soit soi-même, on se culpabilise et on se dit que on n'est pas capable, mais la relation, en quelque sorte, est brisée. Ce qu'on trouve chez Albert Thiry, que je trouve est assez moderne, et qui est, à mon avis, une bonne manière de démarrer, de débuter dans l'enseignement à chaque heure et même à chaque instant, c'est que ce début, c'est le moment où il y a ce travail de retour. De retour, non pas pour abdiquer sur son propre savoir, mais pour le réexaminer, le réexplorer, le revisiter complètement, et le revisiter pour tenter de le rendre saisissable par l'autre. Saisissable par l'autre. Mais c'est l'autre qui s'en saisit. Mais encore faut-il qu'il soit saisissable. Et nous sommes là dans la difficulté du métier. C'est l'autre qui s'en saisit, mais il faut que le savoir soit effectivement saisissable. Donc je dirais volontiers que débuter, c'est ce moment-là, c'est cette réinterrogation-là qui est fondamentale et fondatrice. C'est se situer, c'est une vieille phrase de quelqu'un qui s'appelait Brunel, que j'ai reconsulté pour l'occasion. C'est se situer, dit Brunel, qui a été un des fondateurs du GFEN d'ailleurs. Se situer, dit-il, c'est, enseigner, dit-il, c'est se situer du même côté du savoir que l'élève. Alors, là encore, c'est une phrase qui a près de 100 ans, elle porte les stigmates, on ne dirait pas les choses comme ça aujourd'hui, on le dirait d'une manière plus rigoureuse et scientifique. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire se faire apprenant de son propre savoir en permanence. Ne jamais traiter son savoir comme un objet fossile que l'on passerait à l'autre dans ce que Paul Offréré appelle une pédagogie bancaire. Hein, la pédagogie bancaire consiste à donner quelque chose et à exiger une note en retour, mais on ne met jamais 20 parce que les banquiers comme les professeurs prennent des intérêts et ce qu'ils rendent est toujours moins important que ce qu'on leur a donné. Hein. Voilà, donc on est là, je crois, dans quelque chose qui est qui est apparemment un peu littéraire, qui peut vous apparaître un peu métaphysique, mais qui est intéressant. Et j'ai retrouvé une distinction de ce type chez un philosophe important, un des plus grands philosophes, me semble-t-il, d'aujourd'hui, qui est Jean-Luc Nancy. Alors, Jean-Luc Nancy, vous voyez un petit peu où il se situe, c'est un disciple de Jacques Derrida, autour de la déconstruction-reconstruction, penseur de la postmodernité, etc. Et Jean-Luc Nancy, qui a publié récemment un petit entretien qui s'appelle « Penser par soi-même sur la pédagogie », justement, qui est un entretien avec un élève, je trouve très intéressant. Qu'est-ce que penser par soi-même, je crois, ou penser par soi-même, c'est quoi, enfin, c'est un titre de ce type aux éditions de l'Aube. Jean-Luc Nancy développe la distinction qui me paraît extrêmement importante entre enseignement et formation. Il dit le problème de l'enseignement, c'est qu'il a oublié la logique de la formation. C'est-à-dire qu'il a oublié la logique qui consiste à accompagner quelqu'un sur un chemin et à être auprès de lui. Et il montre très bien, d'ailleurs, avec une certaine férocité, mais tout à fait exacte, que l'université enseigne mais ne forme pas. C'est-à-dire que chaque étudiant passe de cours en cours sans que quiconque se préoccupe de l'unité de ce qu'il fait, de la trajectoire qu'il a, ni de quoi que ce soit d'autre. Hein. Ça n'intéresse strictement personne. Il dit que malheureusement, les professeurs du secondaire ont parfois tendance à prendre modèle sur leurs collègues universitaires dans ce qu'ils ont de moins intéressant, c'est-à-dire dans leur mépris de la formation au nom d'un culte de l'enseignement et d'un faux enseignement. Et puis Jean-Luc Nancy rajoute quelque chose. Il reprend la notion de rapport au savoir, mais à mon avis, il ne connaît pas les travaux des sciences de l'éducation sur le rapport au savoir, les travaux de Bernard Charlot, initiés par Bernard Charlot, mais développés beaucoup par l'équipe de Paris 8, mais aussi par l'équipe de Paris 10 sur les versants plus psycho-affectifs, hein, Claudine Blanchard-Laville, etc. Jean-Luc Nancy dit, mais il parle là en tant que philosophe, il dit « Ce qui se transmet dans l'enseignement, ce n'est pas seulement le savoir, c'est aussi le rapport au savoir de celui qui enseigne. » Et dans le rapport au savoir, il distingue celui pour lequel le savoir qu'il enseigne est un savoir figé une bonne fois pour toutes, qu'il s'est en quelque sorte approprié pendant sa scolarité et qu'il transmet de la même manière tout au long de sa carrière, et celui qui a un rapport au savoir qui fait qu'il est en permanence le chercheur dans son propre savoir. Et il y a un beau passage de Nancy où il dit... le bon enseignant peut faire des cours, bien sûr. Il faut qu'il mette beaucoup ses élèves au travail. Mais moi, je reconnais beaucoup le bon enseignant qui fait des cours parce qu'il fait au sens traditionnel du mot et au sens de ton inspecteur des mauvais cours. C'est-à-dire des cours qui acceptent le tâtonnement, où il va parfois hésiter, où il va chercher, où il va se mettre, s'exposer, dit-il, dans ce qu'il dit, et où sa parole ne sera pas une parole définitive qui cloue le bec, mais une parole en recherche qui ouvre des perspectives, et il refusera, dit Jean-Luc Nancy, d'avoir le dernier mot. Et il conclut férocement, l'enseignant, mon collègue universitaire, a toujours le dernier mot, c'est la raison pour laquelle il n'enseigne plus rien, parce que l'enseignement, c'est le fait de ne pas avoir le dernier mot, mais de laisser le dernier mot à l'autre. Hein. Et je pense qu'effectivement, ce texte est intéressant parce qu'il me paraît reprendre sous une autre forme cette idée du moment pédagogique, cette idée qu'on trouve chez Albert Thierry, cette idée qui est le contraire de l'obstination stupide et idiote du professeur de Galkiewicz, qui est l'idée, non pas d'excommunier l'élève, ni de s'excommunier soi-même, mais de retravailler ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire le savoir qui circule entre nous, sous un angle tel que nous puissions tangenter de temps en temps. Et cette espèce de réexploration permanente de notre propre savoir, y compris de son savoir simple, élémentaire, on peut réexplorer en permanence, l'apprendre à lire, par exemple. On peut réexplorer en permanence l'apprentissage des règles de l'orthographe, parce que ce qu'on croit savoir et qui a définitivement, semble-t-il, été établi par M. Bled, ne peut pas en permanence être enseigné comme M. Bled, compte tenu de la nouveauté sans cesse renouvelée des situations que l'on rencontre. Alors, il y a quelqu'un qui a aussi dit tout ça très bien, c'est Gaston Bachelard. Dans la conclusion de la formation de l'esprit scientifique, quand il définit précisément le scientifique comme quelqu'un qui entretient avec son propre savoir un rapport qui n'est pas, dit-il, le rapport de l'agrégé, mais qui est le rapport du chercheur. Et là, une phrase un peu dure pour les agrégés, dont il dit qu'ils fonctionnent sur le mode du sacrement, qu'ils ont reçu un sacrement dans leur jeunesse et que, au nom de ce sacrement, ils peuvent imposer toute leur carrière, les mains à des cohortes d'élèves en répétant absolument la même chose. Et il oppose ça aux chercheurs, dont il dit que tout enseignant doit être chercheur, parce qu'il doit en permanence réinventer son propre savoir. Vous connaissez la fameuse phrase de Bachelard, « Qui ne continue pas d'apprendre est indigne d'enseigner. » C'est un peu dur, c'est un peu virulent, mais c'est, me semble-t-il, assez juste. Certains pays ont d'ailleurs repris cette idée, sous forme expérimentale, pas nécessairement sous forme, mais il y a eu plusieurs expérimentations, en particulier en Suède, en Finlande et au Danemark, sur, par symétrie, ce qu'on appelle les apprentissages de contrôle. C'est-à-dire, on propose aux enseignants débutants, pour ne pas perdre de vue cette décentration par rapport à l'élève, au moment où il débute, de se mettre à apprendre autre chose, de la musique, du sport, c'est-à-dire quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Ça peut être de la cuisine, on peut proposer à un enseignant de philosophie d'apprendre la mécanique, et c'est considéré comme étant une formation continue dite de premier droit, c'est-à-dire prioritaire. C'est-à-dire si un enseignant de philosophie décide de faire 5 heures de mécanique par semaine, il y a droit automatiquement, il a une décharge équivalente. Parce qu'on considère que cette posture d'apprendre soi-même est une manière finalement de réinterroger ce que Bachelard appelle le dogmatisme des agrégés, c'est-à-dire la certitude de la répétition sans interrogation ni questionnement. Voilà quelques remarques, mais un peu en vrac, autour de quand débute-t-on. Moi, j'aurais tendance à dire on débute chaque fois qu'il y a une résistance, et que cette résistance, on la transforme pour en faire de la lumière. Alors, une lumière dans les savoirs, une lumière, sur la métaphore électrique, mais une lumière qui, au lieu de faire de cette résistance, voilà. Et j'aurais tendance à dire que l'enseignant, le jeune enseignant qui débute, ou l'enseignant qui débute à 61 ans, juste avant sa retraite, enfin, quoi que ça peut être à 72, bientôt la retraite, l'enseignant qui débute à 60 ans, notre devoir est de lui faire entendre qu'il n'y a pas de plus grande joie que la possibilité de travailler sur les erreurs et les difficultés de ses élèves. Voilà, parce que c'est une occasion, c'est le levier majeur pour réinterroger ses propres savoirs et pour réinterroger les situations dans lesquelles nous sommes. Et pour surtout accéder à cette chose difficile à comprendre, parce que, comme le dit très justement Gaucher, nous avons oublié notre enfance et nous avons oublié à quel point c'est difficile d'apprendre. Nous avons oublié à quel point c'est difficile d'apprendre, et ce n'est pas seulement difficile d'apprendre pour des adultes qui se mettent une langue étrangère à 50 ans, c'est difficile d'apprendre aussi pour des enfants. Et je voudrais profiter de cette transition pour passer à la deuxième série de remarques, je regarde l'heure, qui s'intéresse alors, elle, je l'ai intitulée « Comment commence-t-on à apprendre ?», qui s'intéresse, elle, à la difficulté qui précisément constitue ce moment pédagogique dont j'ai parlé, qui est la difficulté de penser et de comprendre la difficulté de l'apprendre. Je rappelle souvent, je le fais parfois avec mes étudiants, que apprendre est difficile au point que les anciens Platon, Aristote, mais presque toute la philosophie médiévale. Presque toute la philosophie, on va dire, classique, Descartes, Spinoza, ne pense pas Platon. Il développe ce qu'on appelle des théories de la connaissance, mais jamais des théories de l'apprentissage. On ne trouve pas de théorie de l'apprentissage jusqu'au XVIIIe siècle. Les premiers à développer des théories de l'apprentissage sont les philosophes matérialistes et empiristes que sont Locke, Helvétius, Condillac, qui vont commencer à se poser la question de l'apprendre et à la traiter sous l'angle matérialiste de l'empreinte. D'ailleurs, enseigner veut dire apposer un sceau, hein, c'est-à-dire faire une forme sur une cire molle, hein, étymologiquement. Mais si on regarde avant le XVIIIe siècle, on ne trouve pas de théorie de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'une théorie de la connaissance, hein, pour ceux? C'est une théorie qui dit comment on peut identifier le vrai, mais qui ne dit pas comment on peut apprendre quelque chose. Ce n'est pas du tout pareil, hein. Chez Platon, par exemple, il y a une théorie de la connaissance très forte, qui est le vrai, c'est le concept, le faux, c'est le sensible. C'est d'ailleurs une théorie de la connaissance que Marx, qui n'est pas platonicien, reprendra parfaitement à son compte. C'est un texte écrit par Engels, mais je suppose que Marx pouvait être d'accord avec ça. Quand Engels dit dans un texte, dans une lettre, il ne faut pas que les patrons se trompent d'ennemis. L'ennemi, c'est que les ouvriers, n'importe quoi, lapsus intéressant. Prends mes désirs pour des réunions. Il ne faut pas que les ouvriers se trompent d'ennemis. L'ouvrier, ce n'est pas le gendarme. Je vais avoir du mal à la sortir, celle-là. L'ennemi, ce n'est pas le gendarme. L'ennemi, ce n'est pas le patron. D'ailleurs, dit-il, si mon petit camarade Marc, il n'est pas comme ça, a appelé son livre Le Capital, il n'a même pas appelé le capitalisme. Il n'a surtout pas appelé les capitalistes. Parce que pour Marx, le capital, c'est-à-dire le système qui permet de fonctionner au capitalisme et aux capitalistes, c'est-à-dire le fonctionnement de la plus-value, a plus de réalité que les capitalistes. D'ailleurs, la preuve, c'est que si vous tuez un capitaliste sans tuer le système, vous aurez dit capitaliste à la place du capitaliste. Si vous tuez un flic, vous aurez dit flic à la place du flic. Parce que le vrai, c'est ce qu'on ne voit pas. Et les gens, en général, reste à croire que la vérité, c'est ce qu'on voit. Alors que la vérité, c'est ce qui rend possible ce qu'on voit. Et qu'il faut aller chercher là où on ne le voit pas. C'est le modèle implicite qui fait fonctionner le système qui est vrai. Ce n'est pas les personnes qui font fonctionner le système. Les personnes, elles sont remplaçables. Et le système les remplacera si on ne le met pas en difficulté ou en échec. Alors, à ce titre, quand Engels dit ça à propos du capital, il a la même théorie que Platon. C'est une théorie de la connaissance. C'est une théorie selon laquelle plus on va vers le concept, plus on va vers le vrai, parce qu'on s'éloigne du sensible, qui peut être considéré comme le réel, mais le réel n'est pas le vrai. Bon. C'est une théorie de la connaissance. C'est pas la théorie de Kant, c'est pas non plus la théorie de Hegel, c'est une théorie de la connaissance. Et ce qui est intéressant, pour revenir à Platon, Aristote et les autres, c'est que ils ne savent pas comment faire pour se débrouiller avec l'apprentissage. Ils sont très emmerdés avec l'apprentissage. Platon est très emmerdé pour expliquer comment les gens apprennent. Au point que il invente des mythes tout à fait invraisemblables, dont lui-même sait probablement que ce sont des mythes. Il y a le fameux texte, évidemment, du Ménon, dans lequel Socrate fait redécouvrir un petit esclave la manière de doubler la surface d'une figure géométrique, etc. Si vous le lisez, la conclusion de Socrate, qui est le porte-parole de Platon, le Ménon est un dialogue de jeunesse, après. Si vous le lisez, vous verrez que Socrate, moi je trouve, il est totalement ridicule, parce qu'il fait tout, et le petit esclave ne fait que dire oui, non, oui, non, oui, 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 je suis d'accord, je suis pas d'accord, et à la fin, Socrate conclut en disant, vous voyez bien qu'il n'a rien trouvé, qu'il le savait déjà, et que je n'ai fait qu'accoucher d'une vérité qu'il possédait en lui avant que je ne l'interroge. Je pense que ça, Platon lui-même n'est peut-être pas dupe de cela. D'autant plus que quand il faut qu'il explique comment ça se fait que le petit esclave connaît avant d'avoir appris, il va nous faire un mythe tout à fait invraisemblable qui est dans la République, qui, à la fin de la République, qui est le mythe d'Er, E-R, le personnage s'appelle Er, le Pamphylien, où il nous raconte que, avant notre naissance, dans les enfers, il y a une espèce de course, que tout le monde est là sur la même ligne de départ, et qu'il y a des savoirs un peu partout, et qu'on claque dans ses mains, que chacun on va rattraper des savoirs, et qu'on les a en nous, et que ce sont ces savoirs qu'on va en nous, que l'enseignant, le philosophe, va faire accoucher, mais qu'on accouche que de ce qu'on a en nous. Cette conception platonicienne des savoirs, à laquelle on peut se poser la question de savoir si Platon lui-même y croyait vraiment, parce que le mythe d'Er le Pamphylien, c'est quand même, quand Platon fait appel à ce mythe-là, à mon avis, ce mythe a une fonction que les épistémologues de la philosophie appellent une fonction de clôture. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour nous dire le vrai, il est là pour clôturer le système et faire que le système ait une cohérence. Parce que sans ça, on ne sait pas comment expliquer ça, un certain nombre de choses. Quand Platon fait ça, il semble qu'il témoigne de cette extraordinaire difficulté qu'ont les anciens de penser qu'on puisse apprendre quelque chose qu'on n'est pas, qu'on n'a pas et qu'on n'est pas déjà. Qu'on puisse, et pourquoi ? Parce qu'on le trouve dans le Parménide et dans d'autres dialogues de Platon, on ne peut pas penser dans l'Antiquité le passage de ce qu'ils appellent le non-être à l'être, du rien à quelque chose. Le passage du rien à quelque chose est un passage à proprement parler impensable dans une pensée de la philosophie de l'être, qui n'est pas une pensée où l'histoire a sa place, où le devenir a sa place. C'est impensable. C'est impensable. Penser que de rien il peut naître quelque chose, que quelque chose qu'on n'a pas en nous, on peut l'avoir en nous après, c'est pas imaginable. C'est inimaginable. Et vous connaissez tous, évidemment, le fameux paradoxe de la cithare, qui est repris par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, et qui est très caractéristique de cette pensée des anciens. Aristote dit, comment peut-on apprendre à jouer de la cithare? La cithare, c'est de la guitare. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près la même chose. Et il dit, en jouant de la cithare. Enfin, il ajoute, si on joue de la cithare, c'est qu'on sait déjà jouer de la cithare. Donc on n'a pas appris à jouer de la cithare. Puisque pour apprendre, il faut déjà le faire, savoir le faire. Alors c'est un savoir qui n'est pas actualisé, mais c'est un savoir potentiel que le maître doit actualiser. Le maître n'a donc qu'une chose à faire, c'est d'actualiser ce qui est contenu déjà en chacun d'entre nous. C'est Aristote explique très justement comment peut-on faire quelque chose pour apprendre à le faire sans savoir le faire. Il dit, c'est pas possible. Puisque pour apprendre à le faire, il faut le faire. Mais si on le fait, c'est qu'on sait le faire. Donc si on sait le faire, on apprend que ce qu'on sait. Bon. Et si on apprend que ce qu'on sait, c'est que l'enseignement ne transmet rien. C'est que l'enseignement ne fait que révéler ce qui existe déjà. Et j'attire votre attention sur le fait que Platon, Aristote, mais aussi les autres, Saint-Augustin, et tout pas mort. Regardez le vocabulaire pédagogique. Épanouissement, par exemple. Il faut que les élèves soient épanouis. C'est une métaphore florale qui présuppose que tout est contenu dans la graine, comme le gland contient le chêne, il suffit de bien l'arroser de manière assez bienveillante en arrachant les mauvaises herbes autour de lui si possible, pour que de l'intérieur sorte et se révèle, vous entendez dans les discours pédagogiques, il faut qu'il se révèle, il faut que ses talents s'expriment, il faut que ses dons et sa vocation se manifeste. On a encore cette difficulté à penser que l'autre peut acquérir quelque chose qu'il n'a pas. Comment un enfant pourrait acquérir quelque chose qu'il n'a pas? Alors on a des biais pour dire ça. Par exemple, il n'est pas motivé pour la géographie. comme si la motivation pour la géographie était génétique ou qu'elle était sociologique. Mais la motivation, ça n'est pas un préalable à l'enseignement, c'est un objectif de l'enseignement. Or, quel est le nœud de tout système inégalitaire et sélectif? C'est de transformer en permanence les objectifs en préalables. Si tu n'es pas motivé, tu ne peux pas apprendre. C'est à moi de motiver l'élève. Si j'écris sur la porte de ma classe, non pas nul n'entre ici s'il n'est géomètre comme Platon, mais nul n'entre dans ma classe de sixième s'il n'est pas déjà attentif au moins pendant une heure, capable de gérer son travail personnel à la maison, capable de chercher de la documentation tout seul dans le CDI, capable de reverbaliser son cours devant un père, etc., etc. Si je mets tout ça, je ne prendrai pas grand monde, hein. Mais ceux que je prendrai, ils réussiront forcément, puisque j'aurai mis mes objectifs en préalable. Donc comme mes objectifs seront passés en préalable, ça c'est très clair. Si on met les objectifs en préalable, le système ne sélectionne que ceux qui précisément ont déjà atteint les objectifs qu'il se fixe. Je le dis parce que, écoutez autour de vous, le mouvement est très fort de ceux qui veulent transformer les objectifs en préalable. Actuellement, c'est un mouvement extrêmement fort, une lame de fond. Et transformer les objectifs en préalable, c'est bien évidemment la meilleure manière de sélectionner avec tout le problème social que ça comporte. Donc, d'une certaine façon, il y a une espèce de rêve des pédagogues qui est hérité de cette vieille tradition endogamique, c'est-à-dire du fait que c'est en soi et de soi que viennent les choses, de cette vieille tradition horticole et jardinière, qui considérerait qu'au fond, nous ne sommes là que pour accompagner quelque chose sur quoi nous n'avons pas pouvoir. Et cette vieille tradition s'exprime à travers tout le courant de la psychologie des dons, tout le courant des fameux tests, et on pourrait longuement parler du QI, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais de tous les autres tests qui existent dans ce registre-là, à travers tous les préjugés du type « il est doué pour les langues hein ». Moi, par exemple, on m'a toujours dit « tu n'es pas doué pour les langues, professeur hein ». Bon. J'ai tiré un mauvais numéro au loto. Bon. Pas dans, j'étais dans R le Pamphilien, là, quand j'étais dans les enfers, j'ai pas pris le bon truc. Et il y a là quelque chose de très intéressant à observer. En même temps, c'est pour ça que l'affaire est compliquée, en même temps, on ne peut pas se débarrasser non plus de ce sur quoi les anciens, comme Platon et Aristote, nous alertaient. À savoir, et vous l'avez pointé précisément, que si nous refusons de dire « il y a prédestination », nous ne pouvons pas refuser néanmoins de dire « je n'ai pas tout pouvoir sur les apprentissages de l'autre ». Donc la ligne de passage est assez compliqué. Il y a une ligne de passage difficile entre une espèce de fatalisme qui peut se parer de tous les oripeaux du respect de l'enfant. Et il faut se méfier de ce concept, le respect de l'enfant. Ça fait partie des lieux communs dont il faut se méfier. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste. Un lieu commun recouvre toujours des acceptions intéressantes. Mais en même temps qu'il est juste, c'est un malentendu. Et parce que c'est un malentendu, il permet de faire une unité factice entre des gens qui ne sont pas d'accord. La notion de méthode active, par exemple, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est une méthode active? Là aussi, c'est un malentendu, la méthode active. C'est quoi? Ça veut dire que les élèves doivent bricoler en permanence dans une classe. Moi, je peux parfaitement vous montrer que devant une bonne conférence d'un scientifique sur l'astronomie, les élèves sont plus actifs dans leur tête que en travaillant avec allez, des allumettes, hein, au hasard. Bon, je donne des exemples. Non, mais je rigole. Mais,
dans les allumettes, on a le groupe méthodes actives.
Absolument.
Voilà.
Ce que, juste ce sur quoi je voudrais vous alerter, c'est que on a du mal à penser l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle c'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'on va y arriver. Parce que là, on a du mal à trouver la ligne de passage entre l'impuissance et la toute-puissance. L'impuissance de celui qui dit « il est doué, il n'est pas doué », soit sous une forme très élaborée, j'ai fait passer les tests, les ECNI, les PM38, etc., etc., soit sous une forme, moi je vois bien qu'il n'est pas doué pour les langues. L'impuissance, c'est le refuge dans le donné, qui est souvent le refuge, évidemment, dans l'inégalité et la rétention dans le pathologique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce que les gens ont hérité et non pas dans ce que les gens ont décidé. Donc il y a toute cette impuissance-là qui nous menace, et puis il y a de l'autre côté la toute-puissance qui nous menace et la toute-puissance qui peut nous conduire jusqu'au délire de la classe québécoise dont je vous parlais. Et donc, nous sommes là devant quelque chose qui est problématique. Et le grand mérite de Rousseau, évidemment, et de l'Émile, en particulier dans chapitre 2 et au-delà, c'est d'avoir trouvé une voie de passage entre l'impuissance et la toute-puissance. Vous connaissez la fameuse formule de Rousseau, « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile ». Le point, c'est de tout faire en ne faisant rien. Alors, c'est souvent une phrase qui est mal comprise, tout faire en ne faisant rien. On la considère comme une espèce de pirouette chez Rousseau, mais ça n'est pas une pirouette. Rousseau dit simultanément, je ne peux pas apprendre à la place de l'autre. Mais il dit, pour autant, je ne peux pas démissionner dans mon travail sans fin pour que l'autre apprenne. Et donc, je dois tout faire en termes de situation, je dois construire des situations, je dois perpétuellement inventer de nouvelles situations, tout en sachant que ces situations ne font pas l'apprentissage, qu'ils le rendent possible, donc je fais tout en ne faisant rien. Voilà, c'est le sens de la phrase de Rousseau. D'ailleurs, les gens ont du mal quand ils lisent l'Émile parce qu'on y trouve des formules contradictoires. On y trouve une formule dans laquelle la fameuse formule... vous enseignez à votre élève les mathématiques comme un savoir, on pourrait carrément mettre ça dans la bouche de Jacques Otto, il obéira et il ne pensera plus par lui-même, etc., etc. Vous savez, l'enseignement qu'il y avait dit, parce qu'il empêche l'autre de trouver par lui-même, hein, la fameuse phrase de Jacques Otto reprise par Rancière. Et puis on trouve à côté de ça des trucs que vous devez toujours savoir où vous voulez amener votre élève. Vous ne devez pas faire un pas que vous ne l'ayez anticipé, vous devez prévoir quelle est la finalité des activités qu'il va faire, et ainsi de suite. Donc on est devant ces affirmations que certains commentateurs ne comprennent pas. Ils considèrent que s'il y a une forme d'incohérence à dire « vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre » et de dire en même temps « vous devez savoir où vous voulez l'amener ». Mais il n'y a pas incohérence, il y a profonde cohérence. Je crois que l'intérêt de Rousseau, c'est précisément d'avoir été le premier à montrer que tout faire en ne faisant rien n'était pas une absurdité, que c'était la seule voie pédagogique face à une difficulté où on crée la situation sans pour autant, évidemment, empêcher l'autre de prendre son initiative. On crée les conditions qui permettent à l'apprentissage d'émerger. On pourrait évidemment montrer comment tout ça se négocie dans le concret, Mais on pourrait aussi montrer que toute l'éducation nouvelle, enfin non, pas toute, Ferrière fait la typologie astrologique et des types caractérologiques, c'est-à-dire explique que, pourtant c'est le grand théoricien des méthodes actives, explique que tous les enfants sont prédestinés en fonction des signes astrologiques et des ascendances astrologiques, que s'il est né sous le signe Vénus du Mercure, il sera un bon mathématicien, s'il est né sous le signe Hermès du Taureau, il sera un bon littéraire, etc. Et lui, il va jusqu'à chercher au-delà, c'est pas le panchilien, là, mais c'est l'astrologie. Hein. Pourtant, le grand théoricien des méthodes actives. Mais pourquoi ? Parce que il y a une espèce d'abstention pédagogique. Rousseau a été vécu longtemps, et Ferrière est le créateur avec l'appareil de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, hein, se veut un disciple fidèle de Rousseau, comme prônant l'abstention pédagogique. On s'abstient pour laisser l'autre faire. Mais pour que l'autre fasse, précisément, il ne faut pas s'abstenir. Pour que l'autre fasse, il faut non seulement être présent, mais construire la bonne situation au bon moment, au bon endroit, avec le bon obstacle, les bonnes questions, et cela n'est jamais fini. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cela n'est jamais fini. On trouve chez Makarenko une phrase célèbre que vous connaissez sans doute, qui est « L'enfant est malade, soignez le milieu ». Moi, je suis globalement d'accord avec ça. Y compris d'ailleurs, si on le prend sous l'aspect thérapeutique, par exemple, si on prend des dérives contemporaines sur la manière dont on soigne le TDAH, les troubles de déficit de l'attention et d'hyperactivité, il y a sans aucun doute un certain nombre d'enfants qui ont des dysfonctionnements à caractère hormonal ou à caractère glandulaire qui provoquent du TDAH et qui donc doivent être traités avec ce qu'on appelle la Ritaline ou le Ritalin, vous connaissez tout ça. Tous les spécialistes, et moi-même j'ai travaillé un peu sur cette question, savent que si on prend les fameux tests qui dépistent le TDAH, ce qu'on appelle les tests de Conners, ce sont des tests qui sont remplis par les enseignants et par les parents, et on recroise les réponses des enseignants et des parents, etc., qui sont des tests très comportementalistes. Si on prend tous les enseignants, tous les élèves qui auraient des tests de Conners négatifs, il y en a extrêmement peu qui relèvent de la médecine. Pour l'immense majorité d'entre eux, c'est qu'ils vivent dans un milieu qui n'est pas équilibré, qui n'est pas structurant, dans lequel il n'y a pas, comme disait Lautré, alternance de situations rigides et de situations aléatoires qui permettent à la fois de donner le cadre et en même temps de s'échapper du cadre, etc. etc. On ne peut pas développer tout ça d'une manière trop longue. Donc oui, l'enfant est malade, soigné au milieu. Alors, ça peut arriver que la maladie soit à un moment donné suffisamment importante pour requérir l'intervention d'un spécialiste, mais dans beaucoup de cas, un certain nombre des 10 dont on nous abreuve aujourd'hui relèvent simplement de dysfonctionnements du milieu qui génèrent les dysfonctionnements de la personne. D'ailleurs, le principe des 10, moi je mets pas ma main à couper parce que je ne veux pas prendre trop de risques, mais enfin, je parie un bob de bière avec qui veut sur le fait que on va vous sortir dans 2-3 ans, par exemple, les 10 géographiques. Pour lequel il va y avoir création d'un corps spécialisé de rééducateurs. Parce qu'il suffit de prendre un groupe aléatoire d'élèves de 5 ans et de demander quels sont ceux qui savent où est le nord, le sud, l'est et l'ouest, et de prendre les 30% de ceux qui le savent le moins, et de décréter que, selon les principes de la courbe de Gauss et de l'étalonnage, les 30% de ceux qui arrivent le moins à se repérer dans l'espace, ils sont 10 géographiques, donc il faut les rééduquer, faire de la géographie, il y aura des rééducateurs en géographie. Il y aura les 10 historiques, etc., etc. On peut faire du 10 partout, puisque l'étalonnage à la courbe de Gauss produit toujours un tiers de mauvais produits, puisque c'est le principe de l'étalonnage. Donc, l'émergence des 10, moi je ne suis pas du tout contre le fait qu'il y ait des enfants qui dysfonctionnent et qui aient besoin d'un traitement spécifique. Je dis simplement qu'il me semble, pour moi, j'avais fait au GF1 à Paris une conférence il y a quelques années que vous trouverez sur mon site sur limites et richesses du modèle médical à l'éducation, hein, richesses et limites plus exactement du modèle médical à l'éducation, où j'avais, à l'époque, maintenant c'est un peu plus vrai, mais où j'avais, je m'étais un peu élevé, contre les dérives de médicalisation systématique de l'échec scolaire, au détriment de l'action éducative, pédagogique et sociale. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, ce qui caractérise l'enseignant qui débute et qui redébute chaque fois qu'il est en face d'une difficulté, c'est qu'il recherche une nouvelle situation. Et une situation se caractérise par quoi ? Alors par trois choses essentiellement. Une situation d'apprentissage, ce n'est pas une situation qui provoque l'apprentissage, c'est une situation qui permet l'apprentissage. Une situation qui permet l'apprentissage, pour moi, mais encore une fois, je n'ai aucun dogme là-dessus, c'est par rapport à mes propres préoccupations et recherches, se caractérise de trois manières. D'abord, c'est ce que le psychanalyste Jacques Lévin appelle un espace hors menace. Pour moi, ça c'est très important, l'espace hors menace. L'espace hors menace, c'est un espace où on peut se tromper et tâtonner sans risque pour l'intégrité psychologique et physique de sa personne. Voilà. Un espace hors menace, c'est un espace où on peut prendre la parole sans crainte d'être moqué par les camarades, sans crainte d'être humilié par un copain ou par quelqu'un d'autre, sans crainte de récupérer parce qu'on tâtonne une mauvaise note qui va plomber votre moyenne, et ainsi de suite. Un espace hors menace, c'est important. Ça peut être, pour des enfants fragiles, un espace physique aussi. Parce que l'espace mental, il faut déjà avoir grandi. L'espace, pour que l'espace mental soit construit, beaucoup d'enfants ont besoin qu'il soit matérialisé par un espace physique, y compris par des places dans cet espace physique. Donc la construction de l'espace est évidemment déterminante pour que l'espace soit hors menace. On n'est pas menacé quand on apprend. Je prends souvent cet exemple-là, qui est particulièrement vrai pour les langues, mais que moi, je connais très mal les langues, et a fortiori l'enseignement des langues. J'ai vécu, en particulier pour l'apprentissage de l'oral, j'ai fait un petit travail il y a déjà de nombreuses années sur l'apprentissage de l'oral, classe primaire pour les élèves, je rencontrais des tas de gens qui je demandais comment vous apprenez à vos élèves à parler, à prendre la parole, et ils me disaient, mais sans l'ombre d'une hésitation, en donnant la parole à la classe. Si vous donnez la parole à la classe, si vous n'avez pas institué un espace hors menace, il n'y a que ceux qui savent parler qui parlent. Hein. Les autres, ils ne parlent pas, hein. Ils ne risquent pas de parler, puisque s'ils parlent, ils sont humiliés, moqués, mal notés, etc., etc. Il n'y a pas d'espace hors menace, le courage des commencements ne peut pas bien être là. Quoi. Le courage de parler quand on bafouille, le courage de faire une hypothèse quand on ne sait pas, le courage de la formuler devant des autres, ça suppose un espace hors menace, où notre intégrité psychologique et évidemment physique, et l'intégrité psychologique et physique de chaque personne soit garantie. Ce qui n'est pas évident et qui même est compliqué parce que il faut que les gens puissent faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et donc, s'il n'y a pas, si on ne leur garantit pas, un peu comme le moniteur d'escalade, que s'il tombe, il y a une corde et qu'il ne risque rien ici, il ne risque rien d'apprendre, de tâtonner, de dire des bêtises, etc. Je pense que la situation ne permet pas l'apprentissage. Or, ce n'est pas un mystère de dire, mais ce n'est pas évidemment vos classes qui sont en question, que malheureusement, à l'observation, beaucoup de classes ne sont pas aujourd'hui des espaces en menace. Ce sont des espaces où les gens se sentent menacés. C'est la raison pour laquelle on a ce paradoxe, bien montré déjà il y a quelques années par plusieurs chercheurs, des sociologues comme Tcherkaoui, etc., qui montrent que malgré les bonnes intentions, parfois des politiques, les élèves des milieux populaires préfèrent les grosses classes aux petites classes, les gros effectifs aux petits effectifs. Parce que dans les petits effectifs, ils sont visibles, ils se sentent en danger. Alors que dans les gros effectifs, ils sont planqués. L'enquête de Cherkaoui portait aussi sur les étudiants d'université de première année. Et là, c'était encore plus flagrant. Les étudiants d'université des milieux populaires ou qui sont en difficulté personnelle fuyaient les petits groupes parce qu'ils se faisaient flinguer par les profs dans les petits groupes. Alors que dans les grands groupes, ils se planquent, ils ne parlent pas, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils s'en vont, etc. Donc on voit bien l'importance de cette première caractéristique de la situation d'apprentissage qui est l'espace hormonal. Deuxième caractéristique à laquelle, pour ma part, je tiens beaucoup parce que elle est simple, mais à mon avis pas suffisamment clarifiée avec les élèves, c'est la distinction entre la tâche et l'objectif. C'est la distinction entre la tâche et l'objectif. La tâche est évidemment ce que l'on fait, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on maîtrise. Mais ça n'est pas nécessairement l'objectif, même en formation professionnelle. J'ai fait hier la rentrée toute la journée avec les collègues de CFA en Berrieux. On travaillait avec des formateurs en cuisine, des formateurs en coiffure, etc. Et on découvrait à partir de leur référentiel que les tâches qu'on leur demande de faire sont relativement peu importantes. Ce qui est important, c'est qu'à travers la tâche, la personne comprenne quelque chose. C'est la grande distinction de Piaget, dans un de ses derniers livres, entre réussir et comprendre. La logique de la réussite à tout prix est parfois une logique qui engendre le fait qu'on fuit la compréhension. C'est particulièrement vrai dans un certain nombre de situations scolaires socialisées. Dès lors que vous mettez des élèves à faire quelque chose, ça c'est des très vieux travaux que j'ai fait, si vous mettez quatre élèves en travail de groupe en leur disant faites un panneau sur un insecte, il y en a un qui dessine parce qu'il sait dessiner, un qui écrit parce qu'il sait écrire, un qui corrige l'orthographe parce qu'il sait corriger, il a une bonne orthographe, et un qui fait rien parce qu'il ne sait pas écrire, il ne sait pas dessiner, il n'a pas une bonne orthographe, et heureusement qu'il ne fait rien parce que sinon le panneau serait raté. Donc vous avez une partition immédiate entre concepteur, exécutant, chômeur et gêneur. Vous mettez les élèves au travail sans règles, concepteur, exécutant, chômeur, gêneur. Ça marche à tous les coups. Vous pouvez regarder dans beaucoup de classes, vous avez les concepteurs, vous avez les exécutants, vous avez les chômeurs, vous avez les gêneurs. Les gêneurs, on les vire, les chômeurs, on les tolère et même on les gratifie dans l'identification dans le produit pour compenser leur implication dans sa fabrication, la non-implication dans la fabrication. C'est grâce au fait que tu as rien fait que le truc est réussi. Parce que si tu avais fait quelque chose, ça serait raté, tu ne sais pas faire. Hein? Et puis vous avez les concepteurs et les exécutants qui travaillent sous l'ordre des concepteurs. On arrive comme ça à des situations très caricaturales, comme c'est fait de l'école, où la maîtresse refait elle-même les dessins la veille pour que les parents soient contents de la pédagogie, qui est pratiquée dans l'établissement, ou pire, parce que c'est plus subtil, chez un certain nombre de jeunes collègues qui se lancent dans les méthodes actives, l'éducation nouvelle, la croyance, parce que c'est une croyance, hein, au sens traditionnel du terme, dans le fait que la qualité de ce que produisent les élèves est le gage de leurs apprentissages et est le gage de leur progrès. Ça n'est pas vrai. Ça peut être tout simplement le gage que seuls ceux qui savaient déjà faire ont fait. Et qu'on a mis les autres de côté. Moi, je le dis en toute simplicité, hein, j'ai cru en débutant, militant d'éducation nouvelle, que le fait de présenter de belles pièces de théâtre, ça allait valider ma pédagogie. Ça validait ma pédagogie. Et que les parents, les collègues et les autres allaient dire « Mais Hériot est un bon pédagogue ». Et de fait, ils l'ont dit. Mais ils se gouraient. Parce que ça ne valide rien. C'est pas parce que je fais une pièce de théâtre où... je donne le premier rôle au haut-parleur et je fais brancher la prise de courant par le bec, hein, que j'ai une bonne pédagogie. Hein, j'ai simplement une pédagogie qui reproduit la division du travail et qui enferme chacun dans un destin tracé à l'avance. Mais je vous mets en garde sur ce point-là, parce que la pression sociale nous dit l'inverse, d'une certaine manière. Elle nous pousse à produire et à exhiber des productions dont nous sommes fiers et dont les parents vont être fiers, sans que nécessairement les apprentissages soient au rendez-vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut au contraire cultiver la médiocrité. Il faut cultiver l'exigence, mais il faut le cultiver avec un certain nombre de garanties, et avec la garantie en particulier, qu'à travers la tâche, chacun a bien atteint l'objectif. Chacun a bien atteint l'objectif à travers la tâche. C'est-à-dire que la seule réalisation de la tâche ne garantit pas que chacun a bien atteint l'objectif. Le fait que chacun a bien atteint l'objectif, ça veut dire que chacun est capable de comprendre pourquoi il a progressé, en quoi il a progressé, ce qu'il a, et de décrire, de verbaliser ce qu'il a appris. J'en parlais hier avec les collègues de CFA d'une récente enquête du CNAM sur la formation des artisans, qui montre que la formation des artisans, que la carrière des artisans est parfaitement prévisible, en fonction de leur maîtrise linguistique. C'est-à-dire, plus le gars est capable de verbaliser les gestes professionnels de son métier, plus on sait que soit il va créer sa propre entreprise, il va devenir formateur, il va prendre des jeunes, il va grimper, il va devenir contremaître, etc. Parce qu'il verbalise les gestes professionnels. Et que la verbalisation des gestes professionnels, c'est bien plus que de savoir les faire. C'est d'acquérir des modèles, on va dire des schèmes, si on veut dire copiager, des schèmes mentaux qui permettent de ne plus être dans ni le mimétisme, ni l'improvisation empirique, mais l'utilisation d'outils mentaux pour répondre à des situations. Et ces outils mentaux seront évidemment... Donc, je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes du premier degré parmi vous, mais...
Il y en a.
Un certain nombre, mais moi par exemple, j'ai travaillé avec une école de la Croix-Rousse, là, il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans, et on a travaillé sur un truc très simple. Hein. Le protocole, c'était de demander aux enseignants de conclure chaque séquence par deux questions: qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris? Et de refuser que la réponse à la deuxième question soit la même que la réponse à la première. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris? Et de demander, et de ne pas se satisfaire qu'un seul élève dans la classe, évidemment, soit capable de répondre à ces questions, mais de faire en sorte que chaque élève soit capable de répondre à ces questions. Donc la deuxième caractéristique pour moi d'une situation d'apprentissage, c'est cette clarification. Et la troisième caractéristique, évidemment, c'est celle qu'on trouve dans les travaux de... sont affichés là, sur les situations problèmes et tout y quanti. C'est celle que Jean-Pierre Astolfi a très bien formalisée dans ses travaux sur l'école et les situations. C'est le fait qu'il y a à la fois un obstacle et un jeu de contraintes et de ressources. Et que l'obstacle est précisément situé, alors faisons pédant, dans la zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'il est un peu plus que ce que la personne sait faire, sans être trop, pour ne pas le décourager. Mais comme le disait Jean-Pierre Astolfi, l'important c'est l'obstacle. Hein. C'est la capacité à placer l'obstacle au bon endroit, et en plaçant l'obstacle au bon endroit, de fournir autour de cet obstacle un jeu de contraintes et de ressources. Mais ça, c'est des choses que vous avez beaucoup travaillé, que le GFN travaille énormément. Moi, en tant qu'institut et prof de français, j'ai beaucoup utilisé sur ce registre-là des exercices comme, et je les ai même utilisés à l'université dans des petits groupes, dans des amphis un peu plus compliqués, des exercices qui sont ceux de Louis Pau, voire de littérature potentielle. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé c'est Raymond Queneau, Georges Perec, etc. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'hypogramme. L'hypogramme, ça consiste à interdire une lettre. C'est-à-dire, ça, j'ai un groupe, je dis vous avez l'interdiction d'utiliser la lettre A, E, I, O, U, et vous avez 5 minutes pour écrire 3 phrases pour décrire ce que c'est qu'une situation problème, et sans la lettre considérée. J'introduis un obstacle. J'introduis un obstacle qui oblige à chercher des mots nouveaux, à organiser les choses autrement. Et puis je dis maintenant, vous mettez tous les cinq et vous communiquez. Forcément, vous n'allez pas avoir le même texte, puisque chacun a une lettre différente. Et donc, en confrontant les cinq définitions, vous allez en faire une qui pourra contenir toute la lettre, mais qui sera plus enrichie. Et on découvre que là, on est vraiment dans une complémentarité, puisque chacun doit apporter quelque chose, et que chacun a quelque chose à apporter qui, forcément, est différent de ce que l'autre, puisqu'il n'a pas, c'est la technique des intergroupes que vous connaissez, moi, que j'utilise énormément. Et le lipogramme, c'est très simple. Moi, je l'ai utilisé très tôt, quand je faisais des stages de remise à niveau dans les programmes PAC, il y a très longtemps, quand les jeunes en grande difficulté, hein. J'avais lu ce livre de Georges Perec qui s'appelle « La disparition ». Il est tout à fait étonnant, hein, c'est 350 pages sans la lettre E. Et on ne s'aperçoit même pas d'ailleurs que la lettre E a disparu avant des centaines de pages. Certains critiques ne l'ont même pas vu. Alors et pourtant, moi-même j'ai eu du mal à voir, hein, je vous dis, je ne suis pas meilleur que les autres là-dessus. Par exemple, il y a une multitude de citations littéraires, donc quand il parle de Baudelaire, il ne peut pas parler de Baudelaire, puisqu'il y a un E dans Baudelaire, donc on va dire un fils adoptif du commandant en pique, bon, etc. Donc il faut chercher les périphrases, c'est compliqué, c'est long. Hein. Et donc moi j'avais lu ça, et avec les groupes que j'avais, on avait un problème qui est un problème réel, hein, qui était le manque de vocabulaire. Vous savez que les mesures qu'on effectue aujourd'hui montrent des écarts en termes de richesse du vocabulaire, absolument colossal entre les enfants, ça va de 1 à 7, 8 à l'entrée en CP, hein, en termes de vocabulaire oral. Et donc, on a notre enfant très significatif, donc le manque de vocabulaire est très très fort, très important. Et donc, à l'époque, dans le programme PAC, on avait des fiches toutes faites pour apprendre du vocabulaire. Alors, il y avait la fiche cuisine où il y avait un dessin d'une cuisine et il y avait des numéros, et puis après, des numéros. Il y avait poêles, casseroles, machin, ceci, et donc on faisait apprendre des listes comme ça. Mais on avait des gamins qui ruaient un peu dans les brancards, parce qu'apprendre des listes comme ça, c'était un peu fastidieux, puis c'est réciter des listes. Bon. Et puis, moi, avec un certain nombre de copains, on avait imaginé d'utiliser le lipogramme, c'est-à-dire on projetait par exemple un tableau, tant que faire, projetons quelque chose de qualité, hein. Et puis il y a une maison. Le gars, il n'a pas le droit d'écrire maison, puisqu'il y a la lettre A et qu'il n'a pas le droit à la lettre A. Donc, je lui ai dit, attends, mais je te donne une contrainte, mais je te donne une ressource. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas Internet, ni l'ordinateur. Je vais te mettre à disposition un truc qui s'appelle le dictionnaire des synonymes. Donc, il va chercher maison dans le dictionnaire des synonymes et va trouver demeure. Est-ce que ça, c'est une demeure? Ah! Qu'est-ce que c'est une demeure? De quoi on peut dire que c'est une demeure. Et on va travailler, on va réfléchir, et progressivement, on va faire des textes. Alors, ces textes sont des tâches. C'est-à-dire que j'ai aucune prétention dans le fait que ce sera des œuvres littéraires dignes de Georges Perec. Mais ces tâches, ce qui est important, c'est qu'elles permettent d'atteindre des objectifs. Et là, l'objectif, c'est de permettre d'acquérir du vocabulaire et d'intégrer ce vocabulaire d'une manière qui soit active à l'intérieur d'une pratique linguistique. Apprendre des listes de mots, c'est pas la même chose que de les utiliser à l'intérieur d'une pratique. Donc la troisième condition d'une situation d'apprentissage pour moi, espace hors menace, tâche objectif, obstacle, contrainte, ressource. Voilà, le triptyque obstacle, contrainte, ressource, qui me paraît constituer une situation d'apprentissage. Et puis je terminerai cette deuxième partie par quelques remarques là-dessus. Ce qui me paraît important aussi, bien évidemment, c'est pour que la situation d'apprentissage soit importante, la mise en place d'un rituel. La mise en place d'un rituel. Les rituels, on le sait, ont une fonction importante. Hein. Les rituels, ils ont la fonction d'apaiser et d'alléger l'angoisse. Hein. Ils ont la fonction de focaliser l'attention. Ils ont la fonction de vectoriser la volonté. Hein. Et à ce titre, ils sont profondément et fondamentalement structurants. À condition que ces rituels soient au service d'une situation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années dans l'institution scolaire, à mon avis, hein, je donne mon avis là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une sorte de crispation sur des rituels anciens, au nom du fait qu'on avait besoin de rituels, mais sans réfléchir sur rituels pourquoi. Et pourquoi faire? Alors les nostalgiques de l'école, machin, ils nous disent qu'il faut remettre les rituels, très bien, moi je ne suis pas contre, mais quel rituel et pour faire quoi? Il y a des rituels à Munich sur la plaine, des rituels partout. Quand j'étais pas très loin d'ici, au lycée Marc Seguin, lycée professionnel Marc Seguin, j'ai repris des BEP, quand les BEP existaient encore, nous avions beaucoup travaillé avec mes collègues professeurs de français et de lettres histoire, parce que c'est un lycée professionnel, on enseignait aussi le droit du travail, sur les rituels d'entrée en classe. On avait un gros problème à l'époque, bon, c'était il y a quelques années, c'est que quand on ouvrait la porte, il y avait une espèce de horde qui rentrait d'une manière totalement invraisemblable, avec les manteaux, les cartables, etc. Tout ça fallait, c'était une pagaille, absolument une pagaille. Alors, l'administration, toujours pleine de... Et on va faire des rangs. D'accord. Les rangs, c'est un héritage de l'époque militaire. L'école était essentiellement une institution entre la caserne et le couvent. Bon, l'architecture, d'ailleurs, était construite à partir du modèle de la caserne et du couvent, comme les grands lycées de centre-ville. Enfin bon, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça n'a pas un sens formidable. Alors, ça peut réguler le mouvement en tempérant les ardeurs, ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est un rituel porteur de sens pour les jeunes? Moi, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, tout le monde me dira que de faire des rangs et de faire monter les gens en rang, ça ne résout pas le problème du démarrage de la classe. Et là, nous avions adopté un principe, un rituel, consistait à écrire avant l'arrivée des élèves, on était prof de lettres, donc tout ça c'est à relativiser et à remettre dans un contexte différent, pour l'histoire, pour l'EPS, pour... Enfin, quoi qu'un EPS, les rituels, ils sont obligés, ou même en biologie aussi. Nous, on faisait rentrer les élèves que quand on avait écrit au tableau, avant leur entrée, une petite citation. Et on faisait rentrer les élèves en se mettant à la porte et un par un en leur disant bonjour par leur prénom. On avait institué ce protocole. Chaque élève allait s'asseoir et les 10 premières minutes du cours étaient consacrées dans le silence à ce que chaque élève écrive cette citation sur son carnet de citation et la prenne dans sa tête par cœur. Il n'y avait pas d'interrogation après. À partir du deuxième trimestre, c'était plus nous, c'était les élèves à leur tour venaient mettre une citation qu'ils avaient eux-mêmes choisie avant que leurs camarades rentrent en classe. Et ils se constituaient ainsi un carnet de citations. Alors, on avait des élèves très en difficulté en langue française, on avait aussi des élèves qui ne connaissaient pas beaucoup de vocabulaire, on avait des élèves qui ne connaissaient pas les auteurs des citations en question. Donc on gagnait évidemment très fortement en arrivée calme, en silence, en mémorisation, on gagnait aussi par le fait qu'ils pouvaient peut-être utiliser ces citations, et on gagnait beaucoup parce que dès lors que les élèves eux-mêmes devaient chercher des citations, ils étaient obligés de se mouiller, etc. Là, il me semble qu'on avait un rituel qui avait du sens par rapport à notre enseignement. C'est-à-dire que ce n'était pas un rituel importé qu'on allait chercher, c'était un rituel qui faisait sens par rapport à ce que nous étions chargés de transmettre. Il n'y avait pas déconnexion entre le rituel et la transmission. Or, ce que nous faisons trop souvent, ce que fait à mon avis trop souvent l'institution, c'est qu'elle déconnecte le rituel et la transmission. Elle le déconnecte. Et si le rituel n'a aucun rapport avec la transmission, bien évidemment, il apparaît comme le lieu de toutes les transgressions, puisqu'on va s'amuser à transgresser le rituel, puisqu'il ne sert à rien par rapport à la mission pour laquelle on est là, qui est la transmission. Enfin, j'étais disais encore aux collègues hier, ils préparaient la rentrée des élèves et des apprentis. La première chose qu'ils leur proposaient de faire, c'était de leur lire le règlement intérieur. Attendez. Le règlement, c'est un outil, quoi. Commencez par leur dire ce qu'ils viennent faire là. Et par leur faire valoir de quoi, qu'est-ce qui vous réunit. Après, évidemment, le règlement intérieur, ça sera une occasion de réfléchir sur qu'est-ce que c'est, non pas seulement que le vivre ensemble, on peut vivre ensemble lobotomisé, hein, sous l'emprise d'un gourou charismatique, mais le faire ensemble, ce qui est évidemment d'une nature totalement différente et ce qui est ce qui construit vraiment la société. Donc je dirais, pour finir cette deuxième partie, parce que je m'aperçois que l'heure tourne plus vite que je ne le croyais, que débuter dans l'apprentissage, ça suppose des situations, mais évidemment, je ne fais que redire des choses que vous savez très bien, et des situations suffisamment ritualisées, avec des rituels articulés à l'objectif de transmission. Je me permets d'y insister parce que c'est difficile. Hein. C'est pas si simple. Avec des gamins un peu déstructurés, on sait qu'ils ont besoin de rituels. On sait qu'ils ont besoin de rituels. Alléger l'angoisse, focaliser l'attention, vectoriser la volonté, le rituel, il est fait pour ça. Il est fait pour ça dans le tribunal, il est fait pour ça au théâtre, il est fait pour ça partout. Si nous ne construisons pas des rituels efficaces, nos situations d'apprentissage risquent de tomber à plat. Ou sur des gens qui manqueront de ce que le psychiatre appelle de contenant psychique. Le rituel fournit le contenant psychique à l'intérieur duquel la situation peut se construire. C'est un enjeu d'autant plus important que si, vous comme moi, on est convaincu qu'il faut mettre en place des situations de construction des savoirs, comme vous le faites, monsieur Fein, il faut aussi montrer que ces situations de construction des savoirs sont structurantes et que ça n'est pas équivalent à la pagaille. Parce que si vous ne gérez pas ces situations de construction avec un minimum de cadre et de structuration, ça part de tous les côtés, sous les spécialistes, sous les yeux réjouis des spécialistes du « je vous l'avais bien dit », regardez quand on leur fait des méthodes actives, c'est la pagaille, il n'y a que le bon vieux cours qui compte. Et là, au moins, je les ai tous à l'œil et je les punis dès qu'ils font un écart. Hein? Donc, il est important d'être attentif à cette structuration du cadre, à ce qui fait contenant psychique pour le jeune, parce que sans cette structuration du cadre, on perd à la fois l'attention, mais on perd aussi la crédibilité pour l'institution. Troisième et dernière partie, je suis vraiment désolé, je vais devoir vous quitter dans peu de temps, mais troisième et dernière partie, j'avais réuni quelques remarques autour de l'idée comment au fond entre-t-on dans l'enseignement, mais au sens du métier d'enseignant. Et je voulais juste, j'avais des choses à vous dire, mais je vais les resserrer un peu. Je voulais souligner la nécessité d'une préparation et en même temps l'insuffisance de la préparation. Alors la nécessité d'une préparation, évidemment, dans trois domaines. Le domaine disciplinaire, hein, cela va de soi, le domaine didactique, mais aussi pour moi, et c'est très important, le domaine pédagogique. Le domaine pédagogique, c'est-à-dire dans une perspective qui n'exclut pas la question des finalités, qui n'exclut pas, et qui ne... Enfin, pour moi, je ne vais pas revenir là-dessus. La pédagogie se caractérise par le fait qu'elle prend en compte trois types de données. On pourrait appeler le registre des fins, F-I-N-S, c'est-à-dire quel type d'homme et quel type de société on veut. C'est ce que j'appelle le pôle axiologique. Le registre des données élaborées par la recherche, c'est ce que je pourrais appeler le pôle scientifique. Et le registre des outils à ma disposition et des moyens concrets que j'ai pour travailler. On pourrait appeler le pôle praxéologique, le pôle de la praxis. une pédagogie, elle se caractérise par le fait qu'il y a une harmonie entre ces trois choses-là. Et qu'il n'y a aucun des trois pôles qui disparaît. Je pense, par exemple, que certains travaux de didactique oublient la question des finalités au sens philosophique politique et se contentent de deux pôles, le pôle scientifique et le pôle praxéologique, au détriment du pôle des finalités, qui est écarté et qui n'est jamais interrogé. Je ne dis pas toutes les didactiques, hein. Évidemment pas celles que vous pratiquez, mais un certain nombre de travaux didactiques, en particulier dans la vulgate d'inspectorat. Ces éléments de préparation disciplinaire, didactique, pédagogique, ils sont absolument nécessaires, mais bien évidemment, ils ne nous exonèrent pas de la prise de risque. Et là, je vais revenir un petit peu à Aristote et vous lire un petit passage d'un philosophe qui me semble-t-il contemporain, quoique décédé, mais qui a bien dit les choses. Qui est Vladimir Yankelevitch. Alors, il revient sur Aristote, vous allez voir. Aristote, une intuition de cet acte par lequel l'homme se délie lui-même et brise le cercle enchanté dans lequel l'enferme l'immobilisme. Réfléchissant sur l'apprentissage de la vertu, il se demande dans les critiques à Nicomaque comment on peut devenir sitariste quand on ne l'est pas déjà peu ou prou, ou trouver les points d'appui et les prises nécessaires pour apprendre à jouer de la sitare, si l'on est sitariste d'aucune manière. Mais si l'on est déjà, on n'a pas besoin de le devenir, car comme disait Platon, il n'est pas possible de devenir ce que l'on est déjà, ni de devenir autre chose que ce que l'on est. Or, le problème se résout tout simplement, dit Yankelevitch, ça vous l'avez déjà dit, par le fait on devient sitariste en jouant de la sitar, comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dans la décision aventureuse, de se jeter à l'eau, l'apprenti rompt le cercle et miraculeusement, irrationnellement, commence à nager. La solution d'elle-même germe et se dessine dans l'initiative. Vous avez dit, je crois que c'est votre groupe, l'enseignement n'est pas un métier impossible puisqu'on le fait. Et il a ces phrases qui sont très connues mais que je me permets de vous relire. Et ainsi l'homme commence par la découverte, c'est-à-dire par la fin finale. Pour commencer, il faut commencer. Et on n'apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage. Car il n'y a pas de recette pour créer, pour commencer et pour donner, mais seulement pour imiter, continuer et conserver. Non, je crois qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Quand il dit, pour commencer, il faut commencer, on n'apprend pas à commencer. Donc il faudrait d'ailleurs commencer à apprendre à commencer, ce qui renvoie à une espèce de truc invraisemblable. Pour commencer, il faut simplement commencer. Et il faut du courage. Et je crois, alors je me permets là de m'engager un peu personnellement, je crois qu'un des problèmes majeurs de l'école aujourd'hui, c'est que on croit que la préparation technique exonère du projet politique susceptible de donner le courage des commencements. Or, je crois que même si elle est extrêmement forte et extrêmement poussée, la préparation technique ne peut pas exonérer de ce qui donne le courage du commencement. Et ce courage-là, c'est le courage que l'on acquiert parce qu'on se sent porté par un projet, et un projet qui est un projet fort, est un projet d'émancipation, est un projet de justice sociale. Et je crois que ce projet n'est plus suffisamment partagé par notre institution et seuls les militants pédagogiques sont, me semble-t-il, au cœur de ce projet. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours milité depuis longtemps pour que les militants pédagogiques aient une place forte dans la formation initiale et continue, évidemment, non pas pour se substituer aux formateurs qui existent, mais avec eux, pour témoigner qu'on peut commencer. Et pour donner aussi du courage. Moi, j'ai tendance à penser que la préparation technique, c'est nécessaire, mais donner du courage aux gens, c'est pas méprisable. Pas une entreprise méprisable. C'est au contraire une entreprise essentielle Et c'est la raison pour laquelle je développe beaucoup, je suis en train d'essayer de finaliser un article là-dessus, un concept que je n'ai pu commencer à réfléchir que à partir du moment, vous allez comprendre pourquoi, où j'ai quitté l'université, j'essaye de définir l'enseignant comme militant chercheur. Alors pourquoi on ne peut pas écrire ça quand on est à l'université? Parce que, évidemment, il s'agit là de deux termes qui sont souvent vécus comme complètement antagonistes. Le militant, c'est celui qui, pour les chercheurs, a des œillères, et le chercheur est pour le militant celui qui a une espèce de scientificité et aucun objectif et aucune finalité. Moi, je crois que c'est pas interdit de penser comme modèle le militant-chercheur.
Non, c'est pas interdit.
Et je pense que c'est un beau modèle, le militant-chercheur, parce que c'est un modèle qui nécessite la coopération et la solidarité entre militants. C'est vrai que le militant peut avoir le nez dans le guidon. C'est vrai que le militant peut parfois avoir une forme de cécité liée à une militance que certains peuvent considérer comme obtuse. Mais c'est vrai que s'il n'est pas seul, s'il accepte l'interlocution des autres militants, eh ben à ce moment-là, cette interlocution rétablit en interne la distance qui permet la mise en perspective et qui, me semble-t-il, permet d'engager un travail collectif plus lucide et plus efficace, et en même temps plus convivial. Voilà. Donc, moi, je crois que le modèle du militant-chercheur n'est pas un modèle obsolète des années 60, comme on nous le dit parfois, que c'est un modèle d'avenir, que c'est un modèle important et c'est un modèle nécessaire pour nos systèmes éducatifs, parce que il est le modèle qui permet de penser un système éducatif en évolution, un système éducatif qui s'institue au sens propre du terme, c'est-à-dire qui tient debout. Or, aujourd'hui, je pense que, faute d'avoir pris ce modèle au sérieux, on est plutôt dans un système éducatif dépressif, c'est-à-dire qu'il vit une forme de dépression, quasiment, hein, et qu'il vit une forme de dépression parce que, précisément, le modèle du militant-chercheur n'y a pas été suffisamment valorisé, il n'y a pas eu sa place institutionnelle telle qu'il aurait dû l'avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, me demander pourquoi, mais il me semble qu'effectivement, il y a quelque chose à interroger là-derrière. Bon, voilà ce que je souhaitais vous dire. J'ai un peu zappé certains éléments que j'avais notés pour la dernière partie, mais vous voyez bien derrière tout ça la complexité de cette notion débuté. Bon, je vous ai dit que j'ai eu l'imprudence d'accepter d'y réfléchir avec vous, et en même temps la fécondité de cette notion, parce qu'elle nous permet de reposer un certain nombre de problèmes, et elle nous permet aussi de nous mettre parfois dans la peau de nos élèves qui, eux, sont de vrais débutants aussi, et comprendre qu'ils sont des débutants, c'est nous mettre nous aussi en posture de débutants intelligents. Voilà. Je m'arrête là, et si vous voulez, mais là, j'ai été un peu distrait, j'ai pas vu passer l'horaire, et il se trouve que j'ai une contrainte de train. Je dois partir à Paris ce soir, parce que cette semaine est un peu chargée en intervention d'autres, donc j'ai pas beaucoup, beaucoup de temps pour le débat, je vous prie de m'excuser, j'aurais dû me censurer moi-même.
Voilà. Merci beaucoup.
Non. Donc nous pouvons quand même prendre une petite dizaine de minutes, mais guère plus pour moi. Voilà. Je suis vraiment confus. Je ne peux pas vous filer la montre. Mais si vous voulez réagir, c'est avec grand plaisir.
Peut-être, tant pis, je me lance, puisqu'il faut avoir droit à ce commencement. Hein.
la dernière idée que tu viens d'exposer là, dont, et que, que tu vas développer dans un article, on va donc attendre ça avec impatience. C'est l'idée, tu la formules tellement mieux, mais l'idée un peu qui a présidé à l'ouverture de cette université. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut renouer avec la question de l'humain. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est peut-être dépasser la difficulté qui est liée au métier de l'humain, où on est tout le temps face à une incertitude, à un inconnu, à un continent noir, je ne sais pas comment l'appeler. Je pense que cette notion-là nous rapproche de la question de l'humain.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est comme sur la question de la temporalité que je n'ai pas
traité.
Oui.
Tu vois, tu repars avec deux idées, là, c'est bon.
Le temps spiralaire et le temps linéaire, c'est important. Donc, s'il y a d'autres prises de parole, ça me fera plaisir.
Oui, alors, à un moment, vous avez parlé de du passage, tout ça, et de la notion du respect de l'enfant, et j'ai pas compris pourquoi vous avez émis des réserves sur ce que tout le monde parle du respect de l'enfant, et j'ai compris qu'à un moment, vous avez dit que
dangereuse.
Galvaudée, dangereuse, oui. Bien évidemment que tout le monde, ça fait partie, ce que Daniel Amrine a théorisé dans son livre sur l'éducation, ses images et son propos, il a théorisé la notion de lieu commun en éducation. Il dit les lieux communs en éducation, on en a besoin. Mais en même temps, on en a besoin parce que ça a une force mobilisatrice, ça permet aux gens de se retrouver, etc. Mais en même temps, il ne faut pas rester... le nez sur le guidon en disant c'est des concepts clairs. La notion de respect de l'enfant, elle peut être mobilisée dans des contextes extrêmement multiples. Respect de l'enfant, ça peut être respecter le fait que à un moment donné, il ne veut pas parler, ça peut aboutir à une forme de démission, voire à une forme d'exaltation de l'infantile au nom du fait qu'il faut respecter l'enfant. Alors, si ça vous intéresse, je vais faire de pub, d'autant plus que le carton a été volé, donc il n'y a aucun problème. J'ai fait un petit livre qui est pour le moment encore une approche, parce que dans les projets futurs, je voudrais faire un dictionnaire des lieux communs de la pédagogie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Respect, individualisation, méthode active, tous ces machins-là, il y a vraiment partenariat, tous ces trucs-là. Partenariat, c'est la meilleure et la pire des choses. Moi, je passe ma vie à organiser des partenariats qui sont des espèces de copulations institutionnelles de la culture. Quand on a tellement mis d'énergie à organiser le partenariat, on n'a plus aucune pour agir sur le terrain. Quand c'est signé le partenariat... Non, alors, le mot respect, c'est un peu ça aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé sur la question des droits de l'enfant, hein, sur la déclaration de 89, etc. Elle est compliquée, cette déclaration des droits de l'enfant. Elle est compliquée, si vous prenez les articles 12 à 15, en particulier l'article 12, l'enfant a droit à la liberté de pensée, d'expression, de conscience, de religion, de réunion, etc. Et tout ce qu'il dit doit être entendu, eu égard à son degré de maturité. Bon. Alors, évidemment, ça se débat, quoi. Moi, je pense qu'il y a une manière de respecter l'expression de l'enfant qui ne l'aide pas à grandir. Il y a une manière, au contraire, de l'aider à s'exprimer qui l'aide à grandir. Korczak, qui est l'inventeur des droits de l'enfant, quoique Maria de Rheim en avait parlé avant lui, mais Korczak est celui qui les a le premier vraiment théorisé. Quand il organise des tribunaux pour enfants dans ces orphelinats, qui donne un rôle particulier à l'adulte. L'adulte, il a un rôle. Vous savez que chaque semaine, tous les enfants qui ont une plainte contre notre enfant mettent la plainte dans une boîte. À la fin de la semaine, on met tout à plat. On tire au sort trois enfants qui n'ont pas été l'objet d'une plainte, ni qui n'ont pas déposé de plainte, qui vont être les juges. Et l'adulte, pour autant, ne perd pas sa place, puisque, d'une part, il a élaboré le code, qui est extrêmement compliqué, 9999 articles, qu'il faut examiner dans l'ordre. Mais surtout, il occupe une place très symbolique, il est le greffier. C'est-à-dire, il écrit tout ce qui se dit. Korczak explique très bien qu'il écrit, c'est pas insignifiant que l'adulte écrive. Parce que l'enfant ne dit pas la même chose s'il sait que l'adulte est là et écrit tout ce qu'il dit et que ce sera que... Et il dit, ça oblige l'enfant à faire attention à ce qu'il dit. Donc, je suis à la fois dans le respect, mais le respect, c'est pas baisser les bras. Le respect, c'est permettre à l'autre d'avoir une expression cohérente, pensée, structurée, et pas simplement être dans l'impulsivité ou l'insulte. Il y a des gens qui considèrent que respecter l'enfant, c'est respecter l'insulte. Ou respecter l'impulsivité, parce que, voilà, je vais raconter une histoire presque familiale, mais pendant ces vacances, j'étais des amis, un gamin, dans les jeux vidéo, et puis il y avait une fête moyenâgeuse, un de 3 ans et demi, 4 ans, qui jouait avec son joystick là, et ses parents lui disent, tu préfères pas aller voir la fête moyenâgeuse que jouer là? Le gamin, il est tellement fasciné par son joystick, il dit, je reste quoi. Et je lui dis à la mère, mais pourquoi tu te casses la tête? Il dit, je t'amène. C'est quoi ce choix que tu fais?
Bien sûr.
C'est un choix, c'est un faux choix.
C'est un faux choix, bien sûr.
Elle me dit, mais il faut respecter le désir de l'enfant.
Ouais, tu parles. Tu parles.
Voilà. Ça, c'est une forme de,
bien sûr,
de pratique, bien sûr, du respect qui est discutable. Hein? Voyez que c'est pour ça que je dis, autour de cette notion de respect, il peut y avoir ça peut être banalisé. Par exemple, la notion de méthodes actives a pu être comprise comme le bricolage généralisé. Et jamais de formalisation. Jamais de formalisation. Bon, ben non. La méthode active, d'ailleurs, dès l'article de Marion, le fameux cours de Marion de 1883, la notion de méthode active est très clairement définie, elle implique la formalisation.
Bien sûr, bien sûr.
S'exonère pas de la formalisation. Voilà. Donc, autour de ça, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter en volant.
Mais il y était.
Voilà.
Il y était.
Ça s'appelle Pédagogie des lieux communs, concept de fait, où je décortique, mais je commence, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce travail. Je pense qu'il faudrait creuser ça, parce que je traite de la question de l'individualisation, par exemple. Je montre que c'est pareil, l'individualisation, ça dépend ce que c'est, quoi. Moi, je souhaite pas d'une individualisation comme en rêve le WISE chaque année, c'est-à-dire le grand machin organisé par la troisième femme par la troisième épouse de l'émir du Qatar, avec toutes les grandes industries de l'informatique qui nous promettent pour les années 2050, une abolition totale de l'école, avec chaque enfant qui reste à la maison et un écran, connecté sur une grande base de données, installé sur les îles Caïmans pour être défiscalisé, et auquel chaque enfant se connecte, avec des tests initiaux pour savoir son niveau dans toutes les disciplines, et travaille toute sa vie, toute sa scolarité, seul en face d'écran. Voilà, si c'est ça l'individualisation, moi... Franchement, cette vision-là de la juxtaposition d'individus face à leur écran qui ne travaillent jamais en commun, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. En revanche, si on me dit l'individualisation, c'est une attention aux difficultés singulières au sein d'un collectif, alors là, oui, je peux accepter ça. Et non seulement je peux accepter, mais je peux revendiquer ça. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que et je vais terminer là-dessus, mon collègue Jean Housset, dans son dernier livre sur la pédagogie traditionnelle, fait une distinction que maintenant j'utilise beaucoup. C'est une progression, une distinction, pardon, de ce qu'il appelle le progressisme administratif et le progressisme pédagogique. Et il dit, attention, actuellement, il y a un progressisme administratif. Le progressisme administratif, c'est le progressisme du management, du pilotage par les résultats. Ces gens-là paraissent progressistes. Mais ce n'est pas le progressisme pédagogique. Hein. Le progressisme pédagogique, il relève d'une toute autre logique. Or, aujourd'hui, je pense que nous vivons un progressisme administratif assorti d'une régression pédagogique, hein, qui veut se faire passer pour du progressisme pédagogique, souvent. Hein, parce qu'on utiliserait les nouvelles technologies, par exemple, ce serait progressiste. Mais enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais vu qu'une technologie en soi est progressiste. Enfin, bon, je pense que cette notion est très juste. Moi, quand je côtoie les nombre de cellules, de l'innovation, ministères, etc., j'ai le sentiment qu'ils sont vraiment dans le progressisme administratif.
Totalement.
Mais pas du tout dans le progressisme pédagogique. Et encore, pas toujours, dit Gérard, à juste titre. Voilà, je vais être obligé de vous laisser.
Oui, bien sûr.
Je vous prie de m'excuser vraiment, d'autant plus que vous avez autre chose à faire derrière. Il faut quand même que je
merci
laisse
beaucoup.
La suite se dérouler normalement. Et puis, moi-même, je dois prendre un train. Voilà. Merci.
T'as enregistré?
Ah non, c'est pas enregistré, j'ai pris en note.
Il faudrait que vous pouvez participer.
En fonction des attributs.